18h, 20h.
Thierry Dagiral sur Europe 1.
Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour deux heures d'information et d'explications aussi. Dans un instant, le journal avec à la une ce soir le malaise des maires. 361 maires et adjoints agressés en 2018. Justement, à 19h20, le sénateur Philippe Bas sera en direct avec nous. Il va lancer cette semaine une grande consultation auprès des 35 000 maires de France. Mais avant, à 18h30, Frédéric Potier sera en studio avec nous. Il est délégué interministériel à la lutte contre le racisme notamment. Il lance un appel pour dire stop, stop au racisme et à l'homophobie dans les stades de foot, mais pas que. On en parle avec lui dans 30 minutes exactement. 18h40, l'interview média invité ce soir, Christian Baumard, c'est le producteur de Scènes de ménage. Je vais vous emmener dans les coulisses de cette série qui fait un carton depuis 10 ans sur M6. 18h50, un peu de détente avec notre balade gourmande avec Marion Sauveur. On va déguster ce soir du Beaufort. Et puis à 19h30, notre débat d'actu. Gros sujet ce soir, cette défiance envers nos élus. Sondage passionnant et qui pose question, paru ce matin dans le JDD. On va en débattre avec l'éditorialiste politique Denis de Montpion et François-Xavier Bourmeau du Figaro. Bonsoir Géraldine.
Bonsoir Thierry.
Vous allez bien ?
Bonsoir à tous. Très bien, merci.
Un programme très chargé ce soir.
Auquel vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, avec le hashtag Europe 1. Excellente fin de journée. Merci de nous rejoindre. Vous écoutez Europe 1. Il est 18h, votre grand journal du soir jusqu'à 20h avec Thierry Dagiral.
Et toute l'information à 18h avec Lionel Gougelot. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Vous le disiez donc dans votre introduction Thierry, le malaise des maires de nos communes est à la une ce soir. Alors qu'un sondage révèle effectivement qu'ils sont les élus préférés des Français, on apprend que les agressions n'ont jamais été aussi nombreuses. Témoignage édifiant, vous verrez dans cette édition. Un parfum de scandale aux USA après le suicide en prison de Jeffrey Epstein, le géant de la finance new-yorkaise, s'est suicidé donc dans sa cellule alors qu'il était incarcéré pour agression sexuelle sur des jeunes filles mineures. On retrouvera notre correspondant aux États-Unis. Et puis le football, la suite de la première journée de Ligue 1 cet après-midi. Lille a battu Nantes tout à l'heure sur le score de 2 buts à 1 au stade Pierre-Mauroy. Et à la mi-temps, Strasbourg mène contre Metz sur le score de 1 à 0. Le journal des sports à la fin de cette édition.
Europe 1. Lionel, on pourrait appeler cela le paradoxe français des maires appréciés par leurs administrés, mais de plus en plus confrontés aux violences.
Ouais, c'est un sondage IFOP de nos confrères du journal du dimanche qui le révèle aujourd'hui. Plus de 8 Français sur 10 affirment apprécier leur maire, alors que dans le même temps, les agressions physiques contre les élus locaux n'ont jamais été aussi nombreuses. 361 faits de violence répertoriés l'an dernier. Et l'affaire du maire de Signes qui est venue dramatiquement illustrer cette tendance la semaine dernière. Un fait de société que ressentent bien également les maires en zone rurale. Jacques Krieger, maire de Roche-les-Beaupré dans le Doubs, en a fait lui-même la triste expérience récemment.
Je suis passé avec ma voiture, j'ai vu qu'il était équipé d'un marteau électrique et puis il était en train de déceler les panneaux. Donc je me suis tout simplement arrêté, je l'ai pris en photo à deux reprises. La volée d'insultes a commencé et ensuite il s'approchait de moi pour essayer de me prendre mon téléphone et il m'attrapa à la gorge et puis il m'a poussé à 3-4 mètres. Ça surprend beaucoup parce qu'on n'a pas été élu pour ça. Et puis il est attendu à chaque coin de rue pour se justifier, pour s'expliquer. J'avais jamais senti ce besoin-là. Le maire qui était respecté par le passé, eh bien, l'est de moins en moins, mais on le voit qu'au niveau du maire, on le voit au niveau des services de gendarmerie, des services de police. À tous les niveaux, on voit une recrudescence d'agressions physiques et d'agressions verbales quotidiennes. Et le souci, c'est que face à ça, nous sommes impuissants, nous n'avons aucune possibilité de nous défendre. On attend une assistance des services de l'État. Nous, c'est surtout ça que l'on attend. Parce que si tout chaque matin, quand on sort de chez nous, on se fait agresser, puis qu'on n'a pas le droit de répliquer, puis qu'on n'est pas défendu par l'État, on se demande à long terme à quoi on va servir et puis ce qu'on va devenir.
Jacques Krieger, maire de Roche-les-Beaupré, dans le département du Doubs.
La sécheresse qui s'installe dans certaines régions françaises commence à susciter l'inquiétude dans le monde viticole, Lionel.
Au printemps dernier, il y a eu des orages, de la grêle et cet été les épisodes de canicule, bien évidemment. Alors les professionnels craignent une perte de rendement et dans certaines régions, le manque d'eau aura forcément des conséquences sur la vigne. Enquête de Claudia Bertram.
En Alsace, les vignes ont attrapé des coups de soleil à cause de la canicule. Dans son domaine à Eguisheim, Mathieu Guinglinger table sur 10% de pertes.
Les vignes ont eu vraiment un gros coup de matraque. Et donc la pellicule, elle est brûlée et elle n'aura plus son élasticité. Il y a même des raisins qui sont complètement flétris, quoi. Dans les coteaux, on a eu entre 5 et 10%. aux sangliers. Dans la plaine, il y a des parcelles où ils ont 20-30% de pertes rien que dû au brûlage. Même en 2003, je ne me rappelle pas avoir vu ça.
En Bourgogne, ce sont les orages de grêle qui ont particulièrement touché certains cépages de pinot noir. Les vignes de Bourgogne-Aligoté et de Montagny d'Alain Joblot ont été épargnées, mais il s'attend à une demi-récolte à cause de la sécheresse.
Par contre, en qualité, pour l'instant, les grappes sont petites, mirandées. Si on a de la pluie encore un petit peu cette semaine et que on a le beau temps de la deuxième quinzaine d'août et le mois de septembre, je pense qu'on a pour faire un très beau millésime.
Les vignes de Laetitia Pietri-Clara à Collioure, dans le Languedoc-Roussillon, ont plutôt été épargnées, même si la vigneronne redoute le stress hydrique.
Moi, mon inquiétude, c'est justement plus le manque d'eau qui va permettre aux raisins de se développer et d'obtenir une maturité phénolique intéressante. Nous, on a quand même la chance d'avoir l'influence de la mer Méditerranée qui apporte quand même beaucoup de fraîcheur.
Et avec ces conditions climatiques, les vendanges de certains cépages s'annoncent plus tardives que les années précédentes.
Justement, à 18h15, on va se poser cette question, hein, malgré les pluies de ce week-end. Je poserai la question à l'hydrologue Emma Aziza. Où en est-on justement sur l'état de la sécheresse en France ?
L'actualité de ce dimanche, c'est aussi l'arrestation en Bretagne de Vincenzo Vecchi, un activiste italien condamné à 13 ans de prison en Italie pour avoir participé aux violences des altermondialistes. C'était lors du sommet du G8 à Gênes en 2001. Violence qui avait fait un mort parmi les manifestants. Il avait fui l'Italie et vivait depuis 8 ans caché dans une campagne du Morbihan. Dans son village, ses amis veulent se mobiliser pour empêcher son extradition.
Cela fait 5 mois maintenant que les services d'urgence sont en grève dans les hôpitaux français.
Et selon le collectif des soignants Interurgences, ce sont 217 hôpitaux qui sont désormais touchés par ce mouvement. Cette semaine, l'Association des médecins urgentistes de France a menacé de lancer à son tour un mouvement de grève si les primes des médecins n'étaient pas revalorisées. Christophe Prudhomme, le président de l'Association des médecins urgentistes, était l'invité de François Geffrier ce matin dans la matinale d'Europe 1. Et il attend lui aussi que le gouvernement prenne enfin des mesures financières fortes pour sauver les urgences.
La crise des urgences, c'est la crise de l'hôpital. Et aujourd'hui, vous savez, les 70 millions d'euros proposés par la ministre sont considérés comme une aumône. Ce que nous demandons aujourd'hui pour que l'hôpital sorte de la crise qui s'aggrave d'année en année, parce que nous sommes soumis à des plans d'économie qui aujourd'hui mettent l'hôpital à mal, nous demandons la suppression d'un impôt injuste qui est prélevé sur l'hôpital, qui s'appelle la taxe sur les salaires et qui représente 4 milliards d'euros. Quand aujourd'hui, on constate que il manque 10 000 postes dans les urgences, il manque 40 000 postes dans les EHPAD pour éviter que des personnes âgées viennent par défaut aux urgences parce qu'il n'y a pas d'infirmière, pas de médecin pour s'occuper des résidents dans les maisons de retraite, dans les EHPAD. Il va bien falloir que le gouvernement comprenne qu'il faut desserrer les cordons de la bourse. C'est une urgence.
Le médecin urgentiste Christophe Prudhomme, ce matin sur Europe 1 dans la matinale week-end de François Geffrier. 4 jeunes d'une 20aine d'années tués dans un accident de voiture la nuit dernière à Vénissieux, près de Lyon. Leur voiture s'est écrasée contre un mur pour des raisons encore mal déterminées. Un 5e passager a été hospitalisé dans un état grave.
Europe 1, 18h07, le journal La Suite, Lionel Gougelot, Thierry Dagiral.
L'étranger à présent. Et cette question autour d'une affaire qui sent le soufre aux États-Unis. Pourquoi Jeffrey Epstein s'est-il suicidé dans sa prison ?
La star du monde de la finance, figure de la jet-set new-yorkaise, était incarcéré pour de sordides affaires d'agression sexuelle, notamment sur des jeunes filles mineures. Il a été retrouvé mort donc dans sa cellule. Un suicide, selon les premiers éléments transmis par le FBI. Mais aux États-Unis, les circonstances de cette mort suscitent de nombreuses interrogations. On retrouve notre correspondant sur place, Benoît Clerc.
L'annonce de la mort du milliardaire dans sa cellule de la prison de Manhattan a fait l'effet d'une bombe alors qu'il devait être surveillé 24 heures sur 24 en raison des risques de suicide. Le ministre de la Justice s'est dit consterné en apprenant la nouvelle et il a demandé l'ouverture d'une enquête administrative, tout comme le FBI qui a immédiatement pris l'affaire en main. Les dizaines de jeunes femmes mineures victimes du prédateur sexuel depuis plus de 20 ans sont également choquées et leur avocate Gloria Allred est furieuse.
Comment est-ce arrivé ? Comment quelqu'un qui est en détention peut être retrouvé mort ? Nous avons droit à des réponses et toutes les victimes ont droit à des explications.
La mort de Jeffrey Epstein ne clôturera cependant pas les actions engagées contre lui au civil et on peut s'attendre dans les mois qui viennent à un grand déballage public où des noms d'hommes politiques et de célébrités ayant participé à ces orgies devraient être dévoilés. Certains d'entre eux sont d'ailleurs déjà cités dans un premier rapport de 72 pages qui a été publié par un juge il y a tout juste 48 heures. Aux États-Unis, Benoît Clerc, Europe 1.
À Oslo, la police ouvre une enquête pour terrorisme après la fusillade hier aux abords d'une mosquée. L'assaillant, qui a été maîtrisé à temps, semblait vouloir frapper la communauté musulmane de Norvège, Frédéric Michel.
Oui, et la minorité musulmane du pays s'inquiète. Cette fusillade intervient après plusieurs attaques menées par des suprémacistes blancs à travers le monde. À ce stade, la police norvégienne privilégie donc l'acte terroriste. L'auteur a des positions xénophobes et il voulait semer la terreur, ont expliqué les enquêteurs. Avant de passer à l'acte, il aurait posté un message sur un forum en ligne, message évoquant une guerre de race et rendant hommage à l'auteur de l'attaque contre deux mosquées au printemps dernier en Nouvelle-Zélande. L'identité de ce jeune homme âgé d'une vingtaine d'années n'a pas été dévoilée. Hier après-midi, il a ouvert le feu dans un centre islamique de la banlieue résidentielle d'Oslo. Trois fidèles étaient présents, un seul a été légèrement blessé avant qu'un sexagénaire réussisse à maîtriser l'individu. Quelques heures plus tard, la police a découvert à son domicile le cadavre d'une adolescente de 17 ans, sa demi-sœur. Entendue dans la nuit, le suspect a refusé de s'expliquer.
Merci Frédéric Michel. À Hong Kong, les manifestants pro-démocratie ne désarment pas. Ils sont encore descendus par milliers dans les rues aujourd'hui pour défier le pouvoir. De nouveaux affrontements avec les forces de l'ordre, barricades et gaz lacrymogènes. Des violences également ce dimanche sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, à plusieurs dizaines de blessés dans des affrontements entre la police israélienne et des fidèles musulmans au premier jour de la fête de l'Aïda Allah.
Lionel, pour terminer ce journal, on va retrouver notre reporter Jean-Jacques Héry, qu'on a suivi tout le week-end. On a suivi son périple tout le week-end sur Europe 1 dans les Alpes.
Oui, et il continue, figurez-vous. Jean-Jacques, vous savez, il a arpenté la mer de glace au-dessus de Chamonix avant de se lancer dans une randonnée en montagne. Et ce matin, Jean-Jacques, alors vous vous étiez fixé la montée de Val Thorens à vélo, comme les coureurs du Tour de France, mais il paraît que vous avez dû mettre pied à terre, Jean-Jacques.
Oui, alors j'ai pédalé quand même, et je vais vous le prouver, écoutez.
Ouais, admettons.
Mais c'est vrai que je n'ai roulé qu'une dizaine de kilomètres sur la trentaine que compte la montée depuis la vallée. Et puis très vite, je me suis fait dépasser. Pas de chance, je suis tombé sur Thierry, un régional de l'étape, même pas essoufflé.
On a l'habitude, puis on a l'habitude d'être en montagne. On a beaucoup de globules rouges, on a de l'énergie à revendre, on va dire.
Vous montez à combien à peu près?
Entre 13 14 km/h à peu près. Il faut 2h, 2h10 pour monter à Val Thorens. À mon niveau, bien sûr, parce que ceux du Tour de France, je crois qu'ils ont mis 1h51 d'Albertville-Val Thorens.
Ceux du Tour de France, leur nom est encore gravé sur ce bitume qui semble s'élever sans fin. Et leurs exploits ici même attirent les touristes désireux de les imiter. Venu de Bourg-en-Bresse, Bruno redescendait lorsque je l'ai rencontré.
C'est une montée que j'ai faite le premier jour de mes vacances et je dois dire que j'en ai un peu bavé. Et c'est là qu'on mesure la difficulté des coureurs qui ne font pas que la montée, mais de très longues étapes, et ça tous les jours.
Et cette souffrance, figurez-vous Lionel, qu'elle crée des liens. À deux, on souffre moins. Alain le Nantais et Christophe le Nordiste ont appris à se connaître dans les lacets. Ils ont terminé l'ascension ensemble. On appelle ça une amitié roulante.
En montée, il faut gérer son effort. Heureusement qu'il y avait monsieur. On est monté à deux. On a bien discuté. On a parlé un peu de tout.
Voilà, c'est ça. Oui. Non, c'est bien. Il y avait le vent de face. C'est encore plus difficile. C'est bien comme ça.
Beau paysage en plus.
Beau paysage. Oui, oui, j'ai eu le temps de le voir. Oui, ça, on peut dire.
Quant à moi, j'ai franchi la ligne d'arrivée à midi. J'ai roulé à 10 km/h en moyenne. C'est deux fois plus lent que les coureurs du Tour de France. Peut-être même un peu plus, en fait.
Oui, c'est pas mal quand même. Merci Jean-Jacques.
Bravo Jean-Jacques. Merci, c'était le journal présenté par Lionel Gougelot. Dans un instant, les sports, mais tout de suite la météo. Valérie Darmon, attention, attention, prudence, quatre départements, Rhône-Alpins, la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont en vigilance orange jusqu'à 22h. Des orages du Tarn à l'Alsace, Valérie.
Et oui, Météo France attend de forts cumuls de pluie de 10 à 30 mm en moyenne en l'espace d'une heure au moins, c'est-à-dire l'équivalent de 2 à 3 semaines de précipitations en 24 heures, des chutes de grêle sous les plus forts orages, de fortes rafales de vent entre 70 et 90 km/h, localement plus 100 km/h au passage des cellules orageuses les plus actives. Et demain, c'est la France entière qui va se retrouver sous la pluie, à l'exception uniquement du Roussillon et de la Corse. Côté température, on se situera alors 2 à 3 degrés en dessous des normales de saison, excepté l'extrême sud-est qui va conserver de la chaleur. Et je vous donne les maximales de ce lundi, qui sera la journée la plus fraîche de cette semaine, entre 18 à Saint-Brieuc, Brest et Boulogne-sur-Mer, et 30 degrés à Marseille, Toulon et Montpellier. À Paris, il fera 24 et à Lyon 25.
Merci beaucoup Valérie. La météo des plages à 18h30.
Le journal des sports.
Et c'est avec Marie Guida ce soir. Bonsoir Marie.
Bonsoir Thierry.
On commence avec le football et la fin de la première journée de Ligue 1 ce dimanche.
Oui, premier derby de la saison entre Strasbourg et Metz à la Méno où on retrouve Patrick Muller.
Et évolution de score à l'instant même avec cette égalisation du Football Club de Metz. Elle est signée Abid Diallo dès les premiers instants de cette Deuxième mi-temps, Thomasson pour Strasbourg, dès la 21e, avait égalisé. Première mi-temps complètement strasbourgeoise. Mais les Messins sont en train de revenir dans cette partie, un partout, après 3 minutes en deuxième période.
Patrick Muller en direct de Strasbourg pour Europe 1.
Lille, dauphin du PSG l'année dernière, débute bien sa saison à domicile.
Oui, victoire 2-1 face à Nantes. Satisfaction, mais pas d'euphorie après cette victoire pour l'entraîneur lillois Christophe Galtier.
C'est que la première journée, les entraîneurs, on est tous impatients de commencer. On est tous contents quand on gagne le premier match. Ceux qui ne le gagnent pas, évidemment, peuvent avoir des doutes quelquefois. Les débuts de championnat, c'est comme ça. Il y a non pas des surprises, les équipes ne sont pas prêtes. Ou d'autres sont mieux, plus rapidement prêtes que d'autres. Il est toujours, et je suis ça tout à l'heure en venant, il est toujours difficile de gagner à domicile le premier match. Il y a beaucoup, beaucoup d'équipes qui se font accrocher à domicile. Ça a failli être le cas. Et heureusement que mes joueurs sont allés jusqu'au bout de leur envie pour aller chercher ce deuxième but qui était synonyme de victoire.
Christophe Galtier au micro de Sébastien Boé. Ce soir, le PSG reçoit Nîmes à 21h. Un match à suivre dès 20h avec Alban Le Poivre.
En tennis, Marie, le retour très attendu d'Andy Murray sur les courts, ce sera la semaine prochaine.
Oui, le Britannique affrontera le Français Richard Gasquet lundi ou mardi au premier tour du tournoi américain de Cincinnati. L'ancien numéro 1 mondial n'avait plus joué en simple depuis l'Open d'Australie en début de saison, gravement blessé à la hanche. Il pensait même mettre un terme à sa carrière, un comeback qui force l'admiration pour l'ancien joueur français, Florent Serra.
C'est vrai qu'après sa deuxième opération, du coup, il a repris progressivement. Il a tellement envie de reprendre que c'est beaucoup de persévérance pour arriver à reprendre sur le circuit principal à ce niveau. Donc c'est déjà une belle chose de le revoir sur le circuit principal. Je pense qu'il va être bien accueilli aussi par les autres. Après, j'attends de voir sur les résultats parce qu'à mon avis, ça va quand même être compliqué sur la longueur. C'est un début, on va dire, pas orgueilleux, mais avec beaucoup de d'envie et beaucoup de difficultés parce que sur un gros tournoi comme ça, ça peut se compliquer rapidement. Et surtout, après, c'est l'enchaînement des matchs qui peut être également compliqué. C'est-à-dire qu'il peut tenir un jour, peut-être 2 heures, mais il faut revenir sur le court le lendemain. Et là, on va voir aussi comment il récupère.
Florent Serra joint pour Europe 1 par Alban Le Poivre. Et puis l'actualité du tennis, c'est aussi la finale du tournoi de Montréal ce soir entre le Russe Medvedev et l'Espagnol Rafael Nadal.
Le journal des sports était présenté par Marie Guida. Vous revenez Marie après le journal de 19h. À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Europe 1.
Dans un instant, notre premier invité, il a plu ce week-end dans le nord et l'est notamment, sur la côte atlantique également tout l'après-midi. Est-ce que la sécheresse est derrière nous? Pas vraiment. On va poser la question à Emma Aziza. Elle est hydrologue et experte en adaptation face au changement climatique. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, 18h-20h. Votre rendez-vous info de la fin de journée, présenté par Thierry Dagiral.
18h17 sur Europe 1, votre grand journal du soir continue avec vous, Thierry Dagiral. Plus de 80 départements sont concernés par des restrictions d'eau.
Exact.
C'est une sécheresse historique qui touche la France et vous recevez Thierry Emma Aziza, hydrologue et spécialiste en adaptation face au changement climatique.
Bonsoir Emma Aziza.
Bonsoir.
Merci d'être en direct sur Europe 1. On est dimanche soir, il a plu, je le disais beaucoup ce week-end, notamment dans le nord, l'est, sur la côte atlantique, en ce moment sur la région Rhône-Alpes. Est-ce que cette sécheresse reste néanmoins ce soir dramatique?
Et oui, tout simplement parce que ces pluies n'ont pas permis finalement de réalimenter les nappes. Ce sont des pluies qui sont passées extrêmement vite. Elles n'ont pas concerné l'ensemble de la France. Et les zones qui étaient déjà extrêmement touchées par les sécheresses restent encore extrêmement atteintes, tout simplement parce que ce sont des zones qui n'ont pas eu de pluie, en tous les cas de pluie conséquente, qui ont permis cette recharge des nappes supérieures et superficielles.
C'est l'une des plus graves sécheresses de notre histoire ?
On a eu déjà des sécheresses colossales quand on remonte dans l'histoire de France. On a été capable de traverser le Rhin à sec ou la Loire. Donc on a vécu, si vous voulez, des périodes où on avait des extrêmes climatiques. Sauf que là, la problématique, c'est que les choses se répètent d'année en année et toujours de manière un peu plus grave. Donc de 2014 à 2017, on a vraiment connu des périodes de sécheresse successivement plus importantes. Et là, ce que l'on découvre depuis ces deux dernières années, ce sont les effets de la canicule qui est un paramètre aggravant et qui vient finalement accélérer le phénomène.
Et ce que vous nous dites aussi, c'est que là, on était en négatif, on partait en négatif, je veux dire, avant même les épisodes de canicule.
C'est ça. On n'était pas trop mal au printemps, mais effectivement, les sécheresses de canicules ont accéléré en fait les phénomènes, surtout celles de juin, de par les flux évaporatoires et les températures qu'on a connues en France. Donc là, on est dans une période où on va attendre les prochaines semaines et surtout l'automne, tout simplement parce que l'année dernière et l'année précédente, la sécheresse avait duré jusqu'au mois de décembre. Donc c'est un sujet qu'on peut presque aborder toute l'année maintenant.
Emma Aziza, quels sont les secteurs touchés par cette sécheresse ?
Alors, principalement le centre de la France et l'ouest, donc toute la vallée de la Loire, notamment, qui est encore particulièrement concernée. Et ce sont des zones où on n'a pas connu de pluie ces quelques derniers jours, depuis début août, qui a pourtant été arrosée dans certains endroits. Et puis, ce que l'on remarque aussi, c'est que vous avez pu le voir, les zones où il y a eu des pluies abondantes, voire même diluviennes, ont principalement apporté finalement de l'eau sur le plan superficiel, donc du ruissellement. Ouais. Et ce ruissellement est un paramètre, là encore, aggravant pour des inondations éclairs qui ravagent tout sur leur passage, donc encore plus destructrices.
On en parlait vendredi soir ici avec la patronne de la FNSEA. C'est bien sûr très dur pour nos agriculteurs. Ils sont déjà en train de prendre sur les réserves de cet hiver. Hein.
C'est ça. En fait, aujourd'hui, je pense qu'on est face à des constats, mais il va falloir mettre en place des actions. Donc, il est largement admis par tous aujourd'hui qu'il va falloir passer à ce que l'on appelle cette adaptation face au changement climatique. En fait, cette réponse, elle est aussi importante que le fait de réduire les gaz à effet de serre. C'est bien de réduire les sources de pollution qui sont nombreuses dues aux gaz à effet de serre, de développer des puits carbone, mais c'est aussi essentiel de conduire des actions qui vont réduire notre vulnérabilité face à ces phénomènes extrêmes. Et il existe de nombreuses solutions. Je vous donne quelques exemples, la modification de nos pratiques agricoles, elle devient obligatoire. C'est une vraie réflexion qu'il va falloir se poser, notamment sur les variétés cultivées. Il va falloir repenser notre manière de conserver l'eau. On l'a dit, il existe de nombreuses solutions qui sont utilisées dans les pays arides, qui ont beaucoup moins d'eau et qui, pour autant, ont des rentabilités agricoles très importantes. Je pense à l'Espagne ou au pays, au Maroc, si vous voulez. Il va falloir réfléchir.
Ah, on a un problème avec vous, Emma Aziza. On vous a perdu. Emma Aziza, ne bougez pas surtout, parce que sinon on vous perd. On vous écoute. Problème d'eau donc.
Oui.
Ce que vous dites, c'est qu'il faut repenser finalement notre façon de récupérer l'eau à terme, l'eau de pluie par exemple.
Tout à fait. Que ce soit à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, il faut récupérer cette eau, construire des réservoirs. Il faut optimiser la gestion de la ressource, notamment dans les zones qui sont très sensibles à la sécheresse. Et donc, ce que l'on peut conclure, c'est tout de suite, il faut se poser des questions dès la rentrée pour analyser tous les usages et les repenser. Et tout modifier, si vous voulez. Mais agir maintenant, plus subir. Et d'année en année, on subit encore un peu plus et ça coûte de plus en plus cher. Aujourd'hui, il existe de nombreuses solutions. Je parle de la sécheresse, mais ça, c'est la même chose pour les inondations, avec la modification de nos modes de construction. Ouais. Et ça, c'est essentiel et c'est une urgence.
Finalement, c'est tout notre continent européen, pas seulement la France, qui est en train de changer le climat.
C'est ça. On a vraiment une réflexion globale et je pense que c'est toute l'Europe qui va devoir se poser sur une réflexion à construire ensemble pour mettre en place des solutions, parce que de la même manière, on est quand même dans une économie européenne globale où il va falloir avoir des actions qui vont être cohérentes entre les pays, si vous voulez. Et donc, on se rend bien compte quand on fait des analyses coûts-bénéfices que le fait de s'adapter et de mettre en place des solutions immédiates, il y a un bénéfice qui est là et qui est réel, tout simplement parce qu'on a moins de dommages subis dès lors qu'on adapte nos modes de fonctionnement, notre agriculture ou nos manières de construire nos maisons. Et là, et ça aura un impact tout de suite. Par contre, il faut s'y mettre maintenant parce que ça prend du temps, ce changement.
Emma Aziza, hydrologue sur Europe 1 ce soir. Un grand merci à vous. Merci, madame.
Merci.
J'espère que vous passez un bon début de soirée. Il est 18h26. À suivre dans votre grand journal du soir, Thierry Dagiral.
Dans 3 minutes, je reçois Frédéric Potier. C'est le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Trop de haine dans les stades. Il dit stop. On en parle avec lui en direct dans un instant. Mais avant cela, le rappel des titres de ce dimanche soir avec vous, Lionel Gougelot.
Avec les derniers matchs de la première journée de Ligue 1 de football, tout à l'heure à 15h, Lille a battu Nantes sur le score de 2-1. Actuellement, Strasbourg reçoit Metz et le score est pour l'instant de 1 partout entre les deux formations dans ce derby de l'Est. Ce soir, le Paris Saint-Germain reçoit Nîmes au Parc des Princes, sans Neymar, plus que jamais sur le départ. Enquête ouverte pour terrorisme en Norvège au lendemain de la fusillade aux abords d'une mosquée de la région d'Oslo. L'assaillant qui a été maîtrisé au dernier moment voulait, selon la police, semer la terreur dans la communauté musulmane. Des dizaines de blessés sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem dans des affrontements entre fidèles et police israélienne. Des violences qui surviennent à l'occasion de deux commémorations juives et musulmanes. Un parfum de scandale aux USA après la mort en prison de Jeffrey Epstein, le mania de la finance incarcéré pour agression sexuelle sur mineurs, s'est suicidé dans sa cellule selon la version officielle. Il était proche de certains politiques et cercles de pouvoir, ce qui suscite de nombreuses interrogations sur la réalité de ce suicide. Et puis une association de victimes d'accidents provoquées par les trottinettes électriques sera reçue au ministère des Transports demain. Ses responsables demandent une réglementation plus stricte et la fin de l'anarchie dans la gestion des trottinettes en libre service. On en parle tout à l'heure dans le journal de 19h.
Merci Lionel. Justement, 19h, le prochain journal avec vous. La météo des plages, Valérie Darmon, attention aux orages ce soir actuellement en Rhône-Alpes et puis le retour de la pluie dans le sud-est, Valérie.
Avec une nouveauté du côté des plages méditerranéennes et l'arrivée des orages à partir de demain sur les Alpes-Maritimes et une partie des Bouches-du-Rhône. Attention, ça va tonner. Cela dit, l'eau va rester très calme entre 24 en Roussillon et 27 dans les Alpes-Maritimes. Et là où il fera le plus beau sur cette journée de lundi, eh bien c'est sur le Roussillon. Vous conserverez des températures sous les parasols dont vous pourrez profiter à 30 degrés, sinon partout ailleurs. C'est la pluie qui arrive, je le disais tout à l'heure, à commencer par la façade atlantique avec une alternance d'averses, de passages nuageux assez sévères et de quelques très rares éclaircies pour les plus chanceux. Un océan calme entre 18 dans le Finistère Sud et 23 toujours au Pays Basque, une moyenne de 20-21 degrés sur les plages. Pluie également sur le littoral de la Manche, alors plus ou moins sévère là également parce que vous êtes relativement privilégié depuis ce dimanche avec un ciel plutôt variable. Des températures sur le sable aux alentours de 21 degrés depuis Brest jusqu'à Dunkerque. Une eau calme, toujours entre 18 dans le Cotentin et 21 dans le Calvados.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Europe 1, il est 18h30, la suite de votre grand journal du soir, c'est avec vous, Thierry Dagiral. On revient ce soir sur cette tribune parue ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France, une tribune contre le racisme dans les stades. Taclons la haine. Elle est signée Frédéric Potier, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Il est votre invité, Thierry Dagiral, en direct dans ce studio.
Bonsoir Frédéric Potier.
Bonsoir.
Elle est forte cette tribune alors que les matchs reprennent ce week-end en Ligue 1. On voulait poursuivre la conversation, la discussion avec vous ce soir. On a tous encore en tête les chants homophobes lors du match OM-PSG par exemple. Vous dites plus jamais ça.
Oui, je dis plus jamais ça parce que c'est la reprise. On a tous envie d'aller au stade, on a tous envie de faire la fête, de passer un bon moment. Et pourtant, il y a encore des comportements qui sont inadmissibles. Alors, il y a déjà eu des réponses. Hein. Le PSG, notamment... a mis en place un certain nombre d'actions, de prévention, de sanctions. La Ligue aussi a eu un rôle majeur. Mais je pense qu'il ne faut pas se satisfaire de tout ça. Il faut essayer de donner une nouvelle impulsion. Il faut que cette mobilisation elle soit générale.
Ce qu'il faut bien dire, c'est que ça touche la Ligue 1, ça touche également le foot amateur. Hein.
Absolument, ça touche tous les niveaux sportifs. Et ça, d'ailleurs, ça ne touche pas que le football. Aujourd'hui, on parle du football parce que c'est la reprise de Ligue 1, mais ça touche aussi d'autres sports. Et je ne suis pas naïf. Je sais que... le sport n'est pas une solution à tous les maux de la société. Néanmoins, il peut prendre sa part. Il peut être un vecteur de fraternité, de tolérance, bien de sûr. Respect. Et ça, ça va de la Ligue 1 aux joueurs amateurs dans des stades et dans des matchs entre simples amateurs de quartier ou de village.
Vous le dites très clairement, il y a les mots, il y a les condamnations officielles, mais ça ne suffit pas, ça ne suffit plus. Maintenant, il faut des actes précis.
Oui, ça ne suffit plus et les actes précis, nous avons engagé avec des partenaires associatifs comme la fondation de Lilian Thuram, avec la LICRA aussi qui a mis en place une fiche de signalement pour pouvoir repérer dans les stades les comportements isolés, certes, mais qui sont quand même inadmissibles. Il y a aussi des actions de prévention, une association qui s'appelle Sportitude qui, elle aussi, essaye de repérer directement quelques énergumènes qui essayent de pourrir un peu l'ambiance, pardonnez-moi l'expression. Ouais. Et puis, il y a aussi la prévention, parce que la sanction, ça ne suffit pas. Mmh. Il faut aller dans les centres de formation, il faut aller dans les écoles.
Nous plus près des mômes, quoi.
Ouais, nous avons, engagé un travail avec l'UNSS. Vous savez, c'est cette grande fédération scolaire, sportive. Ouais. Et donc, on va faire des actions de prévention. On va expliquer ce qu'est le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie. Et pourquoi il n'y a pas d'insultes banales. Pourquoi ce type de comportement, ils doivent être absolument sanctionnés et qu'il y ait une tolérance zéro sur ce type de propos et d'actes.
Il faut éduquer donc.
Absolument.
Il y a des choses qui avancent. Il y a une commission d'enquête parlementaire et puis il y a le nouveau règlement disciplinaire de la FIFA.
Oui, je pense que c'est deux actions complémentaires. D'abord, cette mission parlementaire les deux députés, Georges Buffet et Sacha Houlier, va auditionner un certain nombre d'acteurs, des associations de supporters, des clubs, des fédérations. Donc moi, j'attends beaucoup de cette mission-là. Et j'attends aussi beaucoup de la mise en œuvre de ce règlement de la FIFA, parce que le jour où on déclarera perdu un match, qu'il y aura eu
en cas d'injure discriminatoire dans les stades, les matchs arrêtés seront désormais donnés perdus.
Absolument, déclarés perdus.
Sur
c'est
tapis
ce qu'on appelle sur tapis vert. Ouais. Et je pense que ça aura une valeur pédagogique extrêmement forte. Le jour où on arrêtera la diffusion, le jour où on arrêtera de jouer et que les journalistes expliqueront pourquoi on arrête de jouer, qu'est-ce qui aura été constaté comme propos, comme chant, je pense que ça aura un écho extrêmement fort. C'était d'ailleurs un des souhaits du président de la République, Emmanuel Macron, de la ministre des Sports. Je pense qu'on souhaite tous qu'on n'en soit pas à des condamnations officielles, mais qu'on passe vraiment à des actes forts.
Vous avez vu en Première Ligue, Chelsea a exclu à vie l'un de ses supporters pour racisme. Il faudrait arriver à cela en France également.
Il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été faites sur les supporters. Je pense au PSG notamment, qui a vraiment fait le ménage de manière un peu radicale, mais ça a eu vraiment un succès très net. Donc je pense qu'il faut que les clubs soient extrêmement vigilants, qu'ils ne tolèrent pas dans leurs tribunes certains groupuscules qui peuvent après vraiment avoir des propos extrêmement extrémistes. Ça touche les supporters, mais les supporters, moi, je ne veux pas simplement qu'on soit sur de la sanction, je veux aussi qu'on puisse leur parler,
sur la prévention,
qu'on puisse discuter avec eux.
Bien sûr.
Et leur redire qu'un chant raciste, homophobe, ça n'a jamais fait gagner une équipe.
On parle du foot, là, mais ça ne concerne pas seulement le foot.
Oui, l'homophobie, ça touche d'autres milieux, évidemment. Moi, je suis originaire du Sud-Ouest. On sait bien que dans le rugby, il y a un certain nombre d'expressions dans les vestiaires ou au cours des matchs qu'on peut entendre. Mais là encore, je pense qu'il ne faut pas les tolérer parce que ces propos, ils peuvent être blessants, ils peuvent dévaloriser et je pense qu'aussi, ils peuvent fragiliser psychologiquement un certain nombre de jeunes et de moins jeunes. Et je pense qu'une fois que les joueurs, les entraîneurs, les parents aussi qui sont autour des stades, vraiment peuvent jouer tout leur rôle et permettre de bannir ce type de propos et d'actes.
Frédéric Potier, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Un homme agressé début août à Lille parce qu'il était homosexuel. Le 3 août, c'est un homosexuel de 30 ans qui a été agressé à Nice. Comment vous expliquez cette recrudescence des actes homophobes ?
On vit un moment très paradoxal. La société française, elle est globalement plus tolérante, globalement plus ouverte. Et donc les personnes LGBT vivent plus paisiblement, plus ouvertement leur sexualité, leur orientation amoureuse. Et je crois que cette visibilité entraîne aussi des mouvements, des réactions de rejet, des réactions de repli. Et c'est ce qui explique ces agressions qu'on voit dans différentes villes. Ce n'est pas que Paris, vous l'avez dit. Et je crois que face à ça, il faut qu'il y ait une réaction exemplaire des forces de l'ordre notamment. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un dépôt de plainte pour un acte homophobe, c'est pris très sérieusement dans les commissariats. C'est pris très au sérieux par les pouvoirs publics. Ouais. Il y a des condamnations très fortes. Et d'ailleurs, nous-mêmes, à la DILCRA, la délégation que je dirige, nous allons dans toutes les écoles de police, dans toutes les écoles de gendarmerie, pour expliquer ce qu'est un acte LGBT-phobe, expliquer cela avec des associations comme FLAG, qui est une association de policiers et de gendarmes LGBT. Et je crois que ça permet aussi à ce que cette parole, elle se libère sur les réseaux sociaux et que les plaintes, désormais, sont prises. Ouais. Et elle débouche sur des condamnations.
Plusieurs associations LGBT demandent à rencontrer le président de la République. Est-ce que l'exécutif a conscience de l'ampleur de ces violences ?
Absolument. Ce rendez-vous qui est demandé avec le président de la République et un certain nombre de ministres, nous sommes en train de l'organiser. Marlène Schiappa, d'ailleurs, la secrétaire d'État, a déjà répondu à un certain nombre de présidents d'associations. Moi, je serais très heureux de pouvoir participer à cet échange parce qu'on a fait quand même beaucoup de choses. On ne va pas s'en satisfaire, bien sûr, il faut aller plus loin, mais beaucoup de choses ont été faites en termes de prévention.
Mais vous dites, là, bougez-vous, il faut que ça aille plus vite et plus loin maintenant.
Oui, tous, parce qu'on a tous un rôle à jouer. Il ne suffit pas de dire on veut une condamnation sur Twitter de telle ou telle personne. Non, il faut que les associations nous aident aussi à intervenir à l'école, dans la culture, dans le milieu du travail, pour qu'on aille plus loin.
Le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, Frédéric Potier, en direct sur Europe 1 ce soir. Un grand merci à vous, monsieur. Merci.
Merci à vous.
Europe 1. Europe 1, 18h37 jusqu'à 20h, votre grand journal du soir avec vous, Thierry Dagiral. On va parler maintenant d'une série qui cartonne sur M6 et qui reprend le 26 août prochain. C'est le moment de l'interview média. Vous recevez Thierry Christian Baumard, le producteur de Scènes de ménage.
Oui, on reçoit Christian Baumard. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le producteur d'En Famille qui est diffusé sur M6 cet été à 20h25. La saison dernière, En Famille était suivie en moyenne par 2,6 millions de téléspectateurs. Un très bon score pour l'été. Les résultats sont bons là en ce moment ?
Les résultats sont plutôt bons en ce moment. On a eu un très bon lancement. Le public nous suit et est plutôt fidèle.
C'est la huitième saison, c'est ça, hein ?
Huitième saison. C'est la huitième saison.
Vous avez opéré un changement puisque vous avez intégré un saut dans le temps et également des petites intrigues feuilletonnantes qui changent du concept de la série à sketch. Vous aviez envie de tester quelque chose de nouveau ?
C'était quasiment une obligation pour renouveler tout l'intérêt sur la série.
Ouais.
Donc cette série dont les âmes artistiques sont Alain Capoff et Fanny Riedberger, qui est la showrunner, on a décidé à un moment de casser ce qui pouvait être une forme d'intemporalité sur En Famille, c'est-à-dire rien n'évoluait, c'était la même unité de temps, même unité, même de lieu, avec les mêmes décors. Et on a décidé de faire un bond en avant 5 ans après, de façon à faire évoluer nos caractères. Et on en avait aussi un peu l'obligation, par exemple les jeunes, Antoine et Chloé, bah, ils n'avaient plus l'âge d'aller en terminale ou en première. Hein, voilà, donc il fallait les faire grandir.
Et puis Christian Baumard, on vous doit également ça. Scène de ménage, bien sûr, sur M6, toute la saison à 20h. C'est un carton d'audience depuis 10 ans maintenant. Vous avez d'ailleurs signé cette saison la meilleure depuis 7 ans, avec près de 4 millions de fidèles tous les soirs, 17% de part de marché. Comment vous l'expliquez, ce succès ?
Alors, on l'explique a posteriori, jamais a priori.
Après le 6 minutes et que ça fait un carton d'audience aussi.
Ouais. Alors, on va prendre 2 secondes là-dessus, en fait. Donc, je le redis, les succès s'expliquent a posteriori, quand ils sont avérés, jamais a priori. On a, dans notre métier de producteur, vous voyez, on a plus souvent des échecs que des succès qui durent. Déjà, un succès pour un producteur, c'est d'arriver à convaincre une chaîne de faire quelque chose. Et la plupart du temps, nous, comme mes confrères, je vous rappelle, donc je ne suis pas vraiment le producteur de chacune de ces séries. Je suis l'un des deux fondateurs de la société de production. Et maintenant, on a des équipes.
Cabot.
Voilà, Cabot. Et on a des équipes qui font ça au quotidien. Et voyez-vous, en fait, dans notre métier, la plupart du temps, on fait une saison, on arrive à convaincre un diffuseur, on fait une saison de quelque chose, et puis ça s'arrête. Mmh. C'est souvent le cas. J'attends, moi, avec impatience, la fin, par exemple, d'En Famille, cet été, pour voir M6 à la rentrée.
Pour re-signer.
Pour savoir si on re-signe.
C'est ça.
Tous les ans, figurez-vous, sur Scène de ménage, je vous assure que c'est vrai, tous les ans, on attend la première semaine de diffusion.
À chaque fois, vous rejouez le...
Mais on joue. On a un contrat d'un an, et à chaque fois, on attend les chiffres.
Malgré les audiences comme celle-ci.
Malgré les audiences, et je vais...
Et l'argent que ça ramène à la chaîne, j'imagine aussi.
Alors forcément, il y a une réalité économique de nos métiers, mais c'est normal. Hein, c'est-à-dire, il y a une émission, elle a du succès, il y a de la pub, et le solde doit être positif, c'est pour ça qu'on continue. Mmh. Alors comment on explique le succès de Scène de ménage ? On l'explique parce que, à un moment donné, on a tous les paramètres qui sont ouverts. C'est-à-dire, on a les paramètres artistiques, donc mon associé Alain Capoff, qui est un grand artiste, qui a réussi à composer une émission qui est magique. Pourquoi ? Parce qu'elle vous fait rire instantanément. Elle correspond à un moment donné à ce que les gens recherchaient.
Elle
c'est une
la
forme
société,
de zapping.
Elle raconte la vie de couple.
Et exactement, ce qu'on a tous connu.
Bien sûr.
Il y a plein de vécu dans tout ça. C'est parfaitement incarné avec des comédiens fantastiques. C'est super bien écrit. Puis l'alchimie, ça tombe dans une case à un moment donné. Une case qui fait que les gens recherchent un peu plus de divertissement, un peu moins de JT, parce qu'il y a de plus en plus d'informations en temps réel. Et ça part. Et cette année, on a une chance incroyable. C'est une des meilleures saisons depuis 2014.
200 000 curieux en plus. Hein.
Ouais. Et ça vient, la qualité est toujours au rendez-vous sur Scène de ménage. Les auteurs font un boulot de dingue.
Combien
les comédiens,
20 auteurs,
45.
45
cette saison.
Ah, c'est plus que... D'accord.
Il y en a... Non, vous avez raison. 20 sont les auteurs principaux, mais il y a 25 autres
d'accord.
auteurs.
Voilà. Comment on arrive à se renouveler en permanence ? Parce que La vie de famille, la vie conjugale, bon, ça a été raconté partout. Comment on arrive à trouver de nouvelles histoires ?
Alors, en fait, ça vient des équipes. Donc, du coup, il faut sans cesse mettre des équipes qui apportent un angle nouveau. Par exemple, il y a deux nouveaux directeurs d'écriture sur scène de ménage cette année, cette saison. Ouais. Emmanuel Gann, voilà, et son collègue qui sont à la manœuvre. Le directeur d'écriture, Khaled Amara, historique, a pris un peu de recul. Donc, Laurent Tiffaine et Emmanuel Gann, eux, sont à la manœuvre. Donc, ils apportent des angles précis. Ensuite, on a chez nous, par exemple, des gens qu'on appelle des talent scouts, qui vont aller nous chercher de l'information, ouais. Qui vont aller regarder ce qui se passe dans la vie, qui vont nous dire, tiens, tel couple a eu ceci, cela. Des fois, ça inspire nos auteurs.
D'accord.
Et un élément de renouvellement, c'est également la possibilité d'amener de nouveaux couples qui, alors, naturellement, renouvellent la série.
La saison dernière, il y a eu l'arrivée d'un nouveau couple, Leslie et Léo.
Ouais.
En novembre 2018, on évoquait l'arrivée d'un couple plus âgé pour raconter le parcours, 50, 60 ans, en gros, jusqu'à la retraite. Ouais. On en est où, alors ?
On travaille.
Ouais.
On n'est pas loin.
Ça ne sera pas dans cette saison, alors ?
Non.
D'accord, clairement.
Non, non, ça c'est l'instant. Sûr, mais on travaille. Donc, on a sans cesse, depuis la saison 2 de Scène de ménage, on a toujours eu en développement des nouveaux couples. Toujours. Le process n'est pas encore abouti, mais il ne va pas tarder. Là, je pense qu'on tient quelque chose.
Christian Momma, on vous a souvent fait le reproche, la remarque, de ne pas mettre dans votre série Scène de ménage un couple homosexuel.
Oui, alors ce qu'on a toujours dit, tout le
c'est
monde...
C'est quoi,
hein.
C'est un tabou, c'est M6 qui refuse ?
Pas du tout. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est en quoi... Donc, ce qu'on cherche, c'est une caractérisation propice à la comédie.
Ouais.
C'est ça qu'on cherche. Mmh. C'est-à-dire, si je vous dis à un moment donné... dans la caractérisation, c'est deux néo-ruraux qui viennent de la ville, qui vont à la campagne. Il y en a une qui travaille dans un magasin de bricolage, l'autre est prof et ils s'affrontent sur ceci, cela. Vous allez comprendre, évidemment, c'est Emma et Fabien, vous comprenez pourquoi c'est drôle. Si je vous dis c'est un couple homosexuel, je ne vois pas ce qu'il y a de drôle en soi. Il n'y a rien de drôle. C'est-à-dire, ce qu'il faudrait qu'on arrive à trouver, c'est un couple qui a une caractérisation donnée. Vous citiez tout à l'heure la différence d'âge, qui peut être une caractérisation, on peut parler de la différence culturelle. Et à l'intérieur de ça, on pourra envisager peut-être qu'il soit homosexuel.
Mais par exemple,
mais un couple homosexuel, c'est quoi ? Bah, c'est juste un couple.
Ouais. Mais la série Par un mode d'emploi, qui était diffusée sur France 2, va revenir à l'antenne à la rentrée sous une nouvelle formule avec une famille homoparentale. Ça va dans le bon sens ? Vous en pensez quoi ?
Mais j'attends de voir. C'est-à-dire, non, je parle de série.
Oui.
C'est-à-dire, du point de vue de la société, ça va extrêmement dans le bon sens. C'est-à-dire, nos séries de fiction doivent refléter l'état des lieux de la société. Donc, ça va dans le bon sens.
Vous avez commencé en juin le tournage d'une nouvelle série, Derby Girl, une série autour du roller derby. Ce sera sur la plateforme France TV Slash, donc en streaming sur le web. Est-ce que c'est différent de produire pour le web que pour la télévision ?
Alors, cette série donc, est produite par Barbara Maubert, chez nous, avec Stéphane Moati. Barbara, qui est une jeune productrice. Au sens de son âge, de son expérience.
Quel âge ?
Barbara, moins de 30 ans.
Ouais.
Fantastique. Et elle est très adaptée à la cible visée par cette série, c'est-à-dire une cible de jeunes adultes. Qu'est-ce qui est différent de tourner sur le web ?
Financièrement, déjà ?
Ben, ça dépend avec qui.
Les budgets ne sont pas les mêmes ?
Ben, forcément, bien sûr. Bien sûr, ce n'est pas les mêmes budgets qu'en Airtien, ce qui est normal. Mais en fait, ce qui est différent, c'est surtout le mode de consommation et parfois la cible. Donc, Slash, c'est des jeunes adultes. Donc, c'est différent de la télé qui a un public plutôt vieillissant. Ou en tout cas, la moyenne d'âge du public est supérieure à 45 ans, largement.
Ouais.
Donc, sur le web, dans ce type de programme, on va viser donc, du 20-30 ans ou du 25-30 ans. Donc, du coup, l'écriture
est différente, bien évidemment.
Doit amener des problématiques qui les concernent, doit amener un rythme plus soutenu. Moi j'ai 56 ans, il ne faut pas me mettre un rythme trop soutenu, hein, je décroche, vous voyez. Mais par contre, mes filles, il faut envoyer du rythme.
Les sujets traités aussi sont différents, du coup, puisque...
Bien sûr, c'est dans les sujets...
Ça permet d'aller sur des sujets qu'on ne pourrait pas traiter sur le Herdien, par exemple.
Ça permet d'aller sur des traitements qu'on ne pourrait pas faire sur du Herdien.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est des traitements qui peuvent être plus radicaux. Je ne parle pas de la série, là, je parle en général. C'est-à-dire qu'on peut être plus radical, on peut être plus transgressif. On ne peut pas, dans les médias de masse, Herdien être totalement transgressif. Mais l'avantage de l'OTT, c'est que ça permet en fait d'atteindre des limites de société qu'on ne pourrait pas viser pour l'RT.
Avec une narration différente, du coup ?
Avec une narration qui, oui, parfois peut être différente. Ouais. C'est totalement juste.
Le producteur de Scène de ménage sur M6, Christian Baumard.
Merci à vous.
Merci.
Europe 1, il est 18h46, Thierry Dagiral, on va partir en balade dans nos régions.
La Géraldine Marion Sauveur entre en studio, c'est le moment de découvrir une spécialité régionale. Ce soir, on va partir dans les Alpes. Elle a apporté des choses à déguster. Je suis déjà sur le dossier, figurez-vous.
Pareil.
Un peu de musique et Marion nous rejoint tout de suite.
Thierry Dagiral sur Europe 1.
Il est 18h51, bienvenue sur Europe 1. C'est le moment de notre balade gourmande, Thierry Dagiral, à la découverte des spécialités culinaires de nos régions.
Ouais, c'est notre rendez-vous d'été du week-end avec Marion Sauveur. Bonsoir Marion.
Bonsoir.
Alors ce soir, vous nous emmenez où?
Eh bien, au milieu des vaches.
Oh, que c'est beau. Dans les alpages, là.
Eh oui, exactement. On est en Savoie-Mont-Blanc, dans le Beaufortin. Et dans le Beaufortin, comme dans les vallées du Val d'Arly, de la Tarentaise, de la Maurienne, la spécialité, c'est un fromage.
Le Beaufort.
Et oui, on en a sous les yeux d'ailleurs. Le Beaufort, c'est un fromage à pâte pressée cuite, fabriqué à partir de lait cru et entier de vache. On le reconnaît à son talon concave. Il a une croûte dorée, une pâte ivoire. Et il se présente en meule, généralement de 40 kilos. Et pour réaliser cette meule de 40 kilos, il faut à peu près 400 litres de lait. Alors, il existe trois types de Beaufort. Le Beaufort classique, fabriqué de novembre à mai,
ça,
quand les vaches broutent du foin. Le Beaufort d'été, qui est réalisé de juin à octobre, quand les vaches sont à la pâture, mais aussi en alpage. Et le Beaufort chalet d'alpage, fabriqué uniquement par une grosse dizaine de producteurs, de manière traditionnelle, uniquement de juin à octobre, avec le lait des vaches d'un seul troupeau et qui broute uniquement les herbes, les fleurs à plus de 1500 mètres. Alors on déguste le Beaufort d'été et de chalet d'alpage à partir de la mi-décembre. Et vous le goûtez d'ailleurs ici. Ah oui. Hein.
C'est quoi la différence entre les deux là? Parce que hein, Marion nous a amené deux types de Beaufort.
Alors, le classique
D'accord. Et
le Beaufort d'été dont je viens de parler. Justement.
D'accord.
Voilà.
Très bon. Celui-ci.
Et aussi surprenant que ce soit, alors le Beaufort n'est pas d'origine française. C'est ce que m'a raconté Yves Bauchet dans les Alpages, à peu près 2000 mètres d'altitude, au milieu des vaches, encore une fois, les tarines, vous allez l'entendre. Il est alpagiste, c'est comme ça qu'on appelle les agriculteurs qui s'occupent des troupeaux dans les Alpages.
Tout la forme qu'on connaît actuellement, et c'est les fromagers suisses qui ont amené la recette, qui sont venus travailler dans les alpages de Savoie et qui ont amené la recette telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ça remonte au 19e siècle à peu près. C'est un fromage au lait cru, mais dans la fabrication, il est chauffé. Alors on le chauffe à 54 degrés au moment de la fabrication, on chauffe le grain à 54 degrés, ce qui permet d'avoir un fromage avec conservation longue. Anciennement, il y avait un autre fromage qui s'appelait le vacusium, qu'on a appelé après l'agrovir, qui pour moi n'était pas la recette actuelle du Beaufort. C'était un fromage qui était mi-cuit, mi-lactique, un peu entre le Cantal et le qu'on connaît du Beaufort aujourd'hui. Voilà, c'était quelque chose qui était très difficile à stabiliser, à conserver. Et les Suisses ont amené leur savoir-faire pour faire tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, on fait mieux qu'eux.
Et après 5 mois d'affinage minimum, on n'a plus qu'à le croquer comme vous le faites.
Et Marion, le Beaufort, on peut le cuisiner.
Et oui, bien sûr. L'une des spécialités en Savoie-Mont-Blanc, c'est la tarte au Beaufort. J'ai rencontré Alice Bauchet, la fille d'Yvon, justement, qui aide sa maman au refuge de Plan Mia. Et elle nous donne tous les secrets pour réussir une bonne tarte au Beaufort.
C'est une pâte brisée, tout ce qu'il y a de plus basique, et une préparation de béchamel. Alors une fois que la béchamel a épaissi, on la retire du feu et on ajoute des œufs, puis le Beaufort râpé. Les œufs, c'est pour l'effet soufflé de la tarte, et le Beaufort râpé, c'est pour donner le goût. Et la petite touche secrète, c'est de rajouter de la noix de muscade, parce que ça relève le goût du Beaufort et ça le met en valeur. On la met au four pendant une vingtaine de minutes, jusqu'à ce qu'elle soit bien gonflée et bien dorée. Alors après, c'est pas mal aussi de la laisser refroidir et de la faire réchauffer le lendemain parce qu'elle se tiendra un petit peu mieux.
Superbe, donc ça donne envie ça. Géraldine, vous me disiez que le Beaufort, vous le preniez avec de la poire, c'est ça?
J'aime beaucoup mélanger le sucré salé et du fromage avec de la poire ou du raisin. J'aime beaucoup ça.
Marion, comme chaque week-end, on appelle un chef qui revisite la spécialité dont vous nous parlez. Bonsoir Julien Maché.
Bonsoir.
Vous êtes le chef une étoile du restaurant Le Farçon, c'est à La Tagna, dans la vallée de la Tarentaise, au pied de Courchevel. Et vous réinterprétez la fameuse tarte au Beaufort. Comment vous vous y prenez alors? Racontez-nous.
Alors moi, je m'y prends le plus simplement possible. C'est de mettre beaucoup de Beaufort dedans, en fait.
C'est ça. Et dans la pâte et dans l'appareil, en fait. Hein.
Voilà, j'en mets partout. Non, je fais une pâte, je fais plutôt un craquelin à la place d'une pâte brisée. Je fais un craquelin à base de donc Beaufort, beurre et farine. Ça va nous donner une pâte qui est très, très, très friable. Et à l'intérieur, je vais couler un appareil qui est moitié Beaufort, moitié crème. Très, très léger pour l'époque. Et à la fin, je le cuis, ça, j'amalgame le mélange à 50 degrés et ensuite je rajoute des œufs. Et je coule mon appareil dans cette tarte et elle va cuire 15 minutes à 180 degrés.
Et le Beaufort est vraiment mis en valeur, hein, du coup, dans votre tarte comme ça, hein.
Ben c'est oui voilà, on a vraiment de la matière, mais une légèreté parce que la tarte va souffler un petit peu avec les œufs. Et mais moi c'est ce que j'aime faire, c'est aujourd'hui on est dans des cuisines légères machin. Ben, non, on prend le produit, on met le goût et après on essaye de l'alléger avec un peu de technique.
Et vous faites aussi autre chose au restaurant avec le Beaufort, hein. Ce sont des allumettes.
Les allumettes au Beaufort, oui, ça fait une quinzaine d'années. Alors là, c'est pareil, c'est le produit brut, taillé en allumettes et pané. Pané dans une... alors la recette, bien sûr, a évolué au fil des années. Au début, c'était une chapelure normale avec un petit peu de cumin.
Ah.
Et puis, au fil des années, on a rajouté de la polenta soufflée. Alors la polenta soufflée, c'est une polenta qu'on cuit, qu'on mixe, qu'on fait sécher, et après on le rajoute dans le mélange. Et ça donne des petits grains un petit peu soufflés qu'on ne voit pas forcément, mais qui est très agréable sous la dent. Et en fait, on panne ces allumettes vraiment comme dans une anglaise, et ensuite on les frit. Et on a vraiment un bâton très fragile, mais dedans, on a le croustillant à l'extérieur et dedans le fondant du fromage qui est très agréable.
Et ce Beaufort, vous le mettez en valeur, mais pas que, puisque cet été, vous avez choisi de faire évoluer votre cuisine. Vous faites une cuisine autour du duché de Savoie.
Eh bien, j'ai décidé d'élargir mon territoire et puis ça me semblait logique pour moi. Parce que j'ai une grand-mère qui est italienne, j'ai un papa qui est un brin nationaliste, vous savez, certains disent qu'on n'a jamais été français, ni italien non plus. Donc je me suis ouvert un territoire qui comprend, bah oui, Savoie, Haute-Savoie, ça allait jusque dans le Valais en Suisse, à Aoste, tout le Piémont jusqu'à Nice et la Sardaigne. Et je trouve, en fait c'était sous mon nez, mais... on ne s'ouvrait pas, on faisait vraiment du local. Et puis au bout de 20 ans, on se dit, on a envie de
voyager. Et là, on va sur tout le territoire, voilà.
Voilà.
Merci beaucoup, merci Julien Maché. On peut déguster votre cuisine à la Tania, donc en Savoie, au restaurant Le Farçon.
Et puis si vous passez en Savoie-Mont-Blanc cet été, les producteurs de Beaufort vous accueillent sur les alpages entre 1500 et 2500 mètres d'altitude.
Voilà, j'aime beaucoup ce rendez-vous parce que nos spécialités, c'est aussi nos racines, notre histoire, notre culture. C'est un plaisir, un sacré plaisir de vous retrouver Marion et de vous écouter. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.
On ira à Nice pour faire la salade niçoise.
Merci
Marion. On change
d'univers. Bonne semaine.
Europe 1, il est 18h58.
Dans deux minutes, le journal de 19h. On va revenir sur ces agressions de maires et d'élus locaux. Ce sera d'ailleurs aussi le thème de notre débat d'actu dès 19h30. À tout de suite.
18h, 20h. Thierry Dagiral sur Europe 1.
À 19h15, on sera en ligne avec le sénateur Philippe Bas. Il va lancer cette semaine une grande consultation des 35 000 maires de France. Pourquoi sont-ils la cible d'agression? Et surtout, comment y répondre rapidement? C'est un sujet important et grave. On va d'ailleurs poursuivre le débat à 19h30 avec ce soir l'éditorialiste Denis de Montpion et François-Xavier Bourmeau du Figaro. Et puis à 19h50, retour sur Actu, on va revenir sur le jour où Theresa May a annoncé sa démission. Nous serons avec John Henley du Guardian.
Et nous vous rappelons que vous pouvez réagir bien sûr sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Belle soirée à l'écoute d'Europe 1, il est 19h. Votre grand journal du soir jusqu'à 20h, Thierry Dagiral.
L'essentiel de l'information à 19h avec vous Lionel Gougelot. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Une question dans l'actualité ce soir. Que faire pour mieux réglementer l'usage des trottinettes électriques en libre service dans les grandes villes? Une association de victimes d'accidents sera reçue au ministère des Transports demain pour demander une réglementation plus sévère. Explication dans ce journal. Une commission du Sénat va donc sonder les maires de France sur la question des violences subies par les élus locaux. 361 agressions recensées officiellement L'an dernier. Qui est cet activiste italien arrêté cette semaine en Bretagne, condamné à 13 ans de prison pour des violences lors du sommet de Gênes en 2001? Il vivait caché depuis 8 ans dans un petit village du Morbihan. Enfin, le football avant Paris Saint-Germain-Nîmes ce soir au Parc des Princes pour la première journée de Ligue 1. Il y avait deux matchs cet après-midi. Lille a battu Nantes sur le score de 2-1. Et puis Strasbourg a été tenu en échec à la Méno par Metz sur le score de 1-1 dans le derby de l'Est. Le journal des sports avec Marie Guida à la fin de cette édition.
Europe 1.
Comment mettre fin à l'anarchie des trottinettes électriques dans les grandes villes, Lionel?
Ouais, depuis quelques temps, vous le savez, c'est devenu un sujet ultra sensible à Paris, Marseille, mais aussi dans d'autres grandes métropoles françaises. Demain, une association de victimes d'accidents de trottinettes sera reçue au ministère des Transports pour demander
une réglementation plus sévère, réguler la circulation, le stationnement des trottinettes et mieux sanctionner aussi les auteurs d'infractions. Arnaud Kielbaza est le vice-président de l'association. Son épouse a été victime elle-même d'un accident provoqué par une trottinette électrique en libre-service à Paris.
C'est une façon pour nous d'interpeller les pouvoirs publics sur ce problème parce qu'on s'est rendu compte que les choses se faisaient sans la société civile. La trottinette peut avoir du sens dans certains environnements, dans certains contextes. La première chose que nous on demande, c'est une assurance obligatoire de la part des opérateurs. Ensuite, l'immatriculation des trottinettes, ça permettrait aux forces de l'ordre de verbaliser, surtout parce qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre ne peuvent pas courir après les trottinettes qui sillonnent les trottoirs. On demande à ce que la base de données des utilisateurs, en fait, elle soit accessible au pouvoir public. Ça permettrait de savoir à un instant T qui est sur une trottinette à tel endroit. Mon épouse, par exemple, qui a été percutée sur un passage clouté, avec notre bébé de cette semaine, le conducteur est parti et il est impossible de mettre la main dessus. On considère que la trottinette, c'est un objet enfantin, sans danger, inoffensif, et nous, on veut rappeler que ce n'est pas le cas.
Arnaud Kielbaza, vice-président de l'Association contre l'anarchie urbaine, qui sera donc reçu demain au ministère des Transports à Paris.
Ils sont appréciés par leurs administrés, mais en proie de plus en plus souvent aux violences. Les maires de nos communes vivent un étrange paradoxe, Lionel.
Oui, effectivement. Alors qu'un sondage IFOP du journal du dimanche révélait ce matin que 83% des Français apprécient leur maire. Dans le même temps, eh bien, 361 agressions ont été recensées l'an dernier contre des élus ou leurs adjoints. Chiffre également révélé par nos confrères du JDD ce matin, Claudia Bertrand.
Oui, et dans 40% des cas, il s'agit de violences physiques. Alors ces menaces, violences ou outrages contre les maires ont augmenté ces dernières années. Depuis 7 mois, la tendance semble cependant s'inverser. Les atteintes à l'intégrité physique des élus sont en baisse. Mais sur le terrain, ce n'est pas le ressenti de Jacques Rieger. Il est maire de Roche-les-Beaupré dans le Doubs et il y a un mois, un administré s'en est pris physiquement à lui.
Je suis passé avec ma voiture, j'ai vu qu'il était équipé d'un marteau électrique et puis il était en train de déceler le panneau. Donc je me suis tout simplement arrêté, je l'ai pris en photo à deux reprises. La volée d'insultes a commencé et ensuite il s'approchait de moi pour essayer de me prendre mon téléphone et il m'attrapa à la gorge et puis il m'a poussé à 3-4 mètres. Ça surprend beaucoup parce qu'on n'a pas été élu pour ça. Et puis il est attendu à chaque coin de rue pour se justifier, pour s'expliquer. J'avais jamais senti ce besoin-là.
Les élus sont en danger, c'est ce qu'affirme François Barouin, le président de l'Association des maires de France dans le JDD ce matin. Un maire, c'est un policier dans certaines circonstances, mais sans gilet pare-balles, dit-il. La violence contre les maires se banalise et change de forme aussi. Les agressions progressent par exemple via les réseaux sociaux.
Merci Claudia Bertram.
Et puis on va revenir sur ce malaise des maires. À 19h15, je recevrai Philippe Bas, le président de la commission des lois du Sénat, qui va envoyer cette semaine un questionnaire aux 36 000 maires de France. Dans l'actualité également de ce dimanche, Lionel, l'histoire de cet activiste altermondialiste italien interpellé cette semaine en Bretagne alors qu'il échappait depuis 18 ans à la justice italienne.
Il s'appelle Vincenzo Vecchi. Il a été condamné effectivement à 13 ans de prison en Italie pour sa participation aux violences lors du sommet du G8 à Gênes en 2001. Des violences qui avaient fait un mort, hein, on s'en souvient, parmi les manifestants. Depuis plusieurs années, il vivait caché dans un petit village du Morbihan où l'on découvre son passé plutôt tumultueux. Écoutez, Jean-Pierre, c'est un habitant. Il a été joint tout à l'heure par Yasmina Katou.
Quand il s'est fait arrêter avec 12 gendarmes en civil, et ben, on s'est dit quand même que c'était étrange cette histoire et on a commencé un peu à consulter Internet et puis on a retrouvé en fait les griefs et le jugement qu'il avait subi en Italie. Et c'est là qu'on s'est aperçu que c'est un jugement qui nous semble complètement disproportionné et puis qui nous a donné envie de réagir. On tient à plusieurs un bar associatif. Donc il était impliqué au même titre que tout le monde sur ce lieu, il était bénévole quand on organisait des choses, enfin, ça s'est toujours très bien passé, quoi. Pour nous, il est peintre en bâtiment, et puis voilà, on n'a pas pour habitude de demander aux gens leur pédigré, et d'où ils viennent et pourquoi. C'est quelqu'un qui était très discret là-dessus, et ça peut s'entendre, étant donné le climat en Italie, on ne veut surtout pas qu'il s'extrade, et on va travailler là-dessus, enfin, amener un trophée de chasse à Salvini, on n'a pas envie de ça, quoi. Il a émis le souhait de rester en France et nous, on va tout faire pour que ça aille dans ce sens-là. Oui.
Le témoignage de Jean-Pierre, un ami de Vincenzo Vecchi, des propos recueillis par Yasmina Katou. Une enquête est ouverte pour terrorisme en Norvège au lendemain de la fusillade aux abords d'une mosquée de la région d'Oslo. L'assaillant qui a été maîtrisé voulait, selon la police, semer la terreur dans la communauté musulmane. Les enquêteurs ont dans le même temps retrouvé le corps de sa demi-sœur, dont les circonstances de la mort n'ont pas encore été précisées. Et puis des dizaines de blessés sur l'esplanade des mosquée à Jérusalem dans des affrontements entre fidèles et police israélienne. Des violences qui surviennent à l'occasion de deux commémorations juives et musulmanes.
On va marquer une courte pause et puis on va se retrouver pour parler de ces animaux de compagnie abandonnés dans la nature et qui perturbent la biodiversité. A tout de suite sur Europe 1.
Thierry Dagiral sur Europe 1. 18h-20h, votre grand journal du soir avec Thierry Dagiral sur Europe 1.
Il est 19h07, la suite de votre journal, Lionel Gougeot, Thierry Dagiral.
On parlait hier dans ce journal du drame des abandons d'animaux de compagnie en période estivale. Quand il s'agit d'animaux exotiques, eh bien, cela peut avoir des conséquences sur la biodiversité, Lionel.
Effectivement, il arrive que certains oiseaux ou petits mammifères abandonnés se retrouvent dans la nature et chassent d'autres animaux, des espèces qui se retrouvent ainsi menacées. Dans les Alpes-Maritimes, par exemple, c'est un écureuil, un petit écureuil venu d'Asie qui menace la faune et la flore. Vous allez tout comprendre avec ce reportage de Frédéric Michel.
C'est un bois qui domine Antibes et son front de mer. Un bois envahi d'animaux qui n'ont rien à faire dans ce paysage méditerranéen. Alexandre Viguier est inspecteur à l'Office national de la chasse et la faune sauvage.
Mais là, depuis, on va dire, deux décennies, sur la côte d'Azur, certaines espèces qui ont été des animaux de compagnie à la base, qui ont été remis dans la nature ou échappées, ont bien colonisé tout le territoire, dont notamment l'écureuil de Palace. Et ensuite, ce qu'on entend régulièrement aussi, la perruche à collier.
Venu d'Asie, l'écureuil de Palace est mignon, mais crée d'importantes nuisances. Olivier Lambert est souvent appelé pour des prélèvements. Avec son fusil, il n'est pas toujours le bienvenu, mais son action est essentielle pour l'environnement.
Les populations ont augmenté et ça a commencé à faire des dégâts sur la faune, tout ce qui est ligne téléphonique, arrosage automatique, écorçage des arbres. Le moindre potager, c'est bon, il le pille.
Des conséquences sous-estimées à l'époque où les animaux ont été remis en liberté. Aujourd'hui, les nouveaux animaux de compagnie sont souvent des insectes et là aussi, il y a danger à les rejeter dans la nature. Les espèces exotiques envahissantes sont reconnues comme la troisième cause de l'érosion de la biodiversité mondiale. Antibes, Frédéric Michel, Europe 1.
Et puis c'est une triste réalité de l'été en France. Un enfant sur trois ne part pas en vacances.
Alors forcément, il y a des associations qui se mobilisent pour trouver des distractions à ces petits, bien souvent issus de familles modestes. En Alsace, par exemple, l'association Caritas envoie des jeunes citadins à la campagne dans ce que l'on appelle des familles de vacances. Reportage Charlotte Béchler.
On entend leur chahut depuis la rue, c'est dans la piscine que les deux garçons passent le plus clair de leur temps. Nathan, 6 ans, habite ici, c'est le deuxième été qu'il accueille Israël, 7 ans.
Allez, tous à l'eau !
Qu'est-ce que tu aimes bien ici ?
Jouer, rencontrer ses copains. On allait à Disneyland. Lui, il avait peur du bateau.
Du bateau comme ça.
Il avait peur du truc qui remontait et qui descend vite.
Le reste de l'année, Israël habite avec sa mère, son frère et sa sœur au 17e étage d'une tour à une centaine de kilomètres de là. Bernard et sa compagne n'ont pas hésité à renouveler l'expérience.
Il n'y a pas besoin d'être à l'autre bout du monde. Là, je pense qu'il est très bien. Il sort de sa ville habituelle et là, il est à la campagne. Il y a aussi tout ce qu'il faut sur place. Il y avait une toute petite appréhension. Mais il s'est tout de suite senti comme un poisson dans l'eau.
Dans la cuisine, Armel, la maman, leur prépare des sirops à la fraise. Pas de traitement de faveur, ils sont comme deux frères.
Ça ne nous change pas plus. On a juste une place à table à offrir. Il faut un lit. Pour le reste, on ne change pas nos habitudes. On offre à Israël les mêmes choses que pour Nathan. Il n'y a pas de différence. On ne fait pas un planning spécifique. Ils sont soumis aux mêmes règles, aux mêmes droits et devoirs chacun. Donc, il n'y a pas de souci.
Israël fait dorénavant partie de la famille. L'an prochain, il partira avec elle dans sa maison de vacances en Bretagne. Otterstall, Charlotte Béchel.
Et c'était dans le journal de Lionel Gougelot. Merci Lionel.
Bonsoir.
La météo à présent, Valérie Darmon, je rappelle cette alerte sur quatre départements, la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, avec des risques d'orages violents jusqu'à 22h. Attention, le ciel gronde donc ce soir, Valérie. Ça va donner quoi cette semaine ?
Eh bien, la France va se retrouver en début de semaine, donc en bordure de l'anticyclone des Açores, en proie à une multitude de dépressions circulant des îles britanniques aux pays scandinaves, et ce pour toute la semaine. Donc, temps instable et pluvieux annoncé jusqu'en fin de semaine, avec mardi comme plus belle journée de la semaine, surtout plus sèche. Alors côté température, après le pic de chaleur, les valeurs perdent parfois 10 à 15 degrés entre hier, samedi et demain, lundi, notamment au sud et à l'est, passant ainsi sous les normales de saison. Alors lundi, est la journée la plus fraîche de cette semaine. Les températures vont plafonner autour de 17 à 19 le long de la Manche, 23 à 26 sur les côtes atlantiques et 20 à 23 de l'est au centre de la France. Ces maximales seront inférieures de 3 à 6 degrés au normal. La chaleur va résister en revanche sur la Méditerranée.
Merci Valérie Darmon.
Le journal des sports.
Avec vous Marie-Guida, bonsoir Marie.
Bonsoir.
Et on commence avec le football et la fin de la première journée de Ligue 1 ce dimanche soir.
Avec un match qui vient de se terminer, il n'y a pas de vainqueur dans le derby du Grand Est entre Strasbourg et Metz, Patrick Muller.
Oui, match nul un partout entre les frères ennemis du Grand Est. Ce sont les Strasbourgeois qui avaient ouvert la marque dès la 21e minute par l'intermédiaire de Thomasson qui profitait d'un moment de flottement dans la défense messine. Des Messins qui n'y étaient pas en première période pour leur retour en Ligue 1 mais qui allaient se reprendre dès l'entame du deuxième acte avec cette égalisation David Diallo à la 46e minute. Dès lors, c'est le FC Metz qui prenait l'ascendant et qui avait même l'occasion de l'emporter avec cette frappe sur le poteau en toute fin de rencontre de Ibrahima Niane. Au final, Strasbourgeois et Messin se quittent sur un score nul qui reflète plutôt correctement la physionomie de cette rencontre.
Patrick Muller à Strasbourg pour Europe 1. Et cet après-midi, Lille s'impose de buts à 1 face à Nantes.
Et puis le rendez-vous ce soir à 21h, le PSG qui débute sa saison en Ligue 1 ce soir face à Nîmes au Parc des Princes, Marie.
Et oui, et la principale information, c'est qu'il n'y aura pas de Neymar ce soir sur la pelouse. On file tout de suite au Parc des Princes où l'on retrouve Julien Froment. Julien, on parle peu du match contre Nîmes, mais plutôt de l'avenir de la star brésilienne du PSG.
Ah, effectivement, aux abords du Parc des Princes, c'est le sujet principal de conversation Neymar et ses envies de départ. Hier, le directeur sportif, Leonardo, a un peu plus ouvert la porte à un transfert du Brésilien. Les discussions sont un peu plus avancées. Je suis allé à la rencontre des supporters et pour eux, c'est clair, c'est adieu Neymar.
Comportement de gamin qui partent au Barça ou au Real, bon, pas besoin de lui.
Je veux son départ parce qu'il crache trop sur le club, il est trop absent, il nous apporte rien pour le prix où on l'a acheté.
Il n'a pas respecté le club, il n'est pas plus important que le club et puis qu'il retourne, qu'il retourne là où il veut aller, mais plus chez nous.
Il ne faut pas respecter les supporters, merci pour tout, il faut partir monsieur.
Voilà Marie, vous l'aviez dit, Neymar ne jouera pas. Ce soir, le Brésilien ne reportera pas le maillot du PSG tant que le dossier ne sera pas réglé. Un dossier qui pourrait s'accélérer dans les prochains jours.
Julien Froment en direct devant le Parc des Princes pour Europe 1. PSG Nîmes, coup d'envoi à 21h. Une rencontre à suivre dès 20h dans Europa Sport avec Alban Lepoivre. Et puis en Angleterre, Arsenal s'est imposé 1-0 sur le terrain de Newcastle. Et c'est en ce moment le premier choc de la saison entre Manchester United et Chelsea. On approche de la fin du match, il reste 10 petites minutes à jouer. Pour le moment, c'est Manchester United qui mène 4-0 avec notamment un but du français Anthony Martial pour les Mancuniens.
On voit avec vous le reste de l'actualité sportive, Marie.
Oui, en bref, en tennis, finale du tournoi de Montréal ce soir entre le russe Medvedev et l'espagnol Rafael Nadal, qui a profité hier du forfait du français Gaël Monfils en demi-finale. En MotoGP, troisième podium de la saison pour le français Fabio Quartararo. Il termine troisième du Grand Prix d'Autriche, remporté par l'italien Andrea Dovizioso et un autre italien qui brille en cyclisme cette fois, Elia Viviani, sacré champion d'Europe aux Pays-Bas lors de l'épreuve sur route. Le français Arnaud Démare, lui, termine 9e.
Merci Marie, c'était le journal des sports présenté par Marie-Guida.
Europe 1. Il est 19h15 à suivre dans votre grand journal du soir, Thierry Dagirel.
Je vais recevoir le président de la commission des lois du Sénat. Il lance une grande consultation des maires cette semaine, des maires agressés, des maires en plein malaise. Le sénateur Philippe Bas, dans un instant, sur Europe 1.
18h, 20h.
Votre grand journal du soir avec Thierry Dagirel sur Europe 1. Thierry Dagirel sur Europe 1.
Et votre grand journal du soir se poursuit avec vous, Thierry Dagirel. 361 maires et adjoints ont été victimes d'agressions en 2018. Le malaise des maires et des élus locaux. La commission des lois du Sénat va envoyer un formulaire aux 36 000 maires pour les sonder et apporter des solutions. Thierry, ce soir, vous recevez le sénateur Philippe Bas, président de cette commission des lois du Sénat.
Bonsoir Philippe Bas.
Bonsoir.
Merci d'être en direct ce soir sur Europe 1. Ce chiffre est hallucinant, 361 maires et adjoints agressé en 2018. Il y a bien sûr eu cette semaine la mort du maire de Signes, Jean-Mathieu Michel. Vendredi encore, c'est le maire de Saint-Mion en Auvergne qui a été agressé au couteau. Vous dites stop, trop c'est trop.
Oui, en effet, vous savez, la commune c'est une petite république dans la grande, comme on a coutume de le dire. Et le maire, c'est le premier visage de l'autorité publique. Et si le maire n'est pas protégé dans l'exercice de sa fonction pour faire respecter la loi dans la commune, faire respecter les arrêtés municipaux, alors c'est la multiplication des conflits, des tensions, des gens qui jettent les encombrants n'importe où, des gens qui occupent des terrains privés, des gens qui ont des conflits de voisinage qui tournent mal. Et donc nous avons collectivement un très fort intérêt à protéger la fonction de maire et aussi à encourager nos maires, à les soutenir quand ils se trouvent face à des tensions, des incivilités et plus gravement face à des menaces, du harcèlement ou bien même des violences physiques. C'est important pour la démocratie.
Monsieur Bas, c'est pour cela que vous ouvrez une grande consultation des maires. Les formulaires sont prêts. Ils vont être envoyés aux 36 000 maires pour les sonder, c'est ça, hein ?
Oui, nous avons terminé le travail. On a travaillé d'arrache-pied toute la fin de cette semaine. Et je pense que au début de la semaine prochaine, les maires vont pouvoir recevoir notre questionnaire que nous avons validé, complété avec l'Association des maires de France qui nous a beaucoup aidés dans ce travail. Parce que notre but, au fond, c'est d'ailleurs un préalable à l'action. Et en matière d'action publique, on devrait toujours, je pense, procéder ainsi. C'est d'abord de connaître le phénomène qu'on veut traiter en l'objectivant, en ayant des chiffres. Nous avons aussi demandé aux différents ministères concernés, l'intérieur avec les préfets, la police, la gendarmerie, la justice avec les tribunaux, les procureurs, les collectivités territoriales qui ont aussi des informations pour avoir des chiffres précis. D'ailleurs, aujourd'hui, le journal de dimanche a sorti les premiers chiffres et c'est important de prendre la dimension exacte du phénomène. Nous, en nous adressant à 35 000 maires, nous espérons, et j'espère que ceux qui nous écoutent vont répondre, nous espérons que nous aurons vraiment la capacité d'identifier exactement les problèmes que nous connaissons pour pouvoir ensuite avoir un vrai plan d'action pour que les maires soient confortés dans leur rôle républicain au service de nos concitoyens.
Monsieur Bas, justement, qu'est-ce que vous allez faire de ces réponses ? Qu'est-ce que ça va devenir ensuite ? À quoi ça va servir finalement ? Vous allez alerter le gouvernement avec ces réponses ?
Non mais vous avez, exactement, le gouvernement heureusement est conscient, je crois, du problème, ou en tout cas il en a pris conscience. Nous aurons, nous, à partir du 15 septembre, date que nous avons fixée pour recueillir toutes les réponses, un tout petit peu de temps pour les exploiter. Nous allons faire à la commission des lois des auditions des experts concernés, des représentants des associations d'élus aussi. Et puis nous voulons être en mesure de contribuer à mettre au point un plan d'action qui pourra comporter éventuellement des mesures législatives. Et ça tombe bien, puisque le gouvernement a repris beaucoup de propositions du Sénat dans un texte que le Sénat va examiner début octobre. Ouais. Donc on a un calendrier qui est un calendrier rapide. Au fond, on n'a pas voulu se précipiter. On a d'abord voulu confirmer ce que nous savons par nos relations personnelles avec les élus, avec les maires. Nous avons voulu le confirmer, le conforter avec des chiffres, mais nous voulons aussi passer à l'acte le plus vite possible, avec des idées qui peuvent se traduire dans la loi, bien sûr, mais aussi des propositions, mais nous attendons le résultat de notre enquête avant d'y réfléchir et de les formuler, qui viseront l'information, l'éducation civique, les comportements, l'assistance juridique aux maires quand ils sont agressés, le rôle que peuvent avoir les sous-préfets pour soutenir davantage les maires, surtout quand ils exercent des fonctions de police, et ils le font en particulier au nom de l'État. Le maire n'est pas seulement l'agent de la commune, il est l'agent de l'État. Il faut donc une mobilisation forte pour les soutenir. Et c'est d'autant plus important que, comme vous le savez, il y a l'an prochain des élections municipales et beaucoup de maires qui rendent de grands services à la population, à leur commune et plus généralement, je peux dire, à la République, ouais, disent ne pas vouloir se représenter parce qu'il y a eu une accumulation de difficultés dans leur travail. Les questions d'insécurité en font partie, mais il y a aussi l'accumulation des normes, les difficultés financières, l'érosion de leurs ressources et des dotations de l'État, la faiblesse de la protection juridique. Ouais. Tous ces éléments doivent absolument être traités pour revivifier la démocratie locale.
Monsieur Bas, vous dites il faut que le gouvernement maintenant réagisse vite, ça veut dire aussi possiblement par décret ?
Maintenant, vous savez, il y a déjà dans nos textes beaucoup de choses. Je crois que ce qui est très important, c'est la mobilisation des services de l'État aux côtés de nos maires et de nos communes pour que quand il y a un problème, on ne les laisse pas tomber, on les soutienne, déclenche, quand il y a une plainte en gendarmerie, une plainte auprès du procureur, des enquêtes, et qu'on ne laisse pas impunis les menaces, les agressions, que aussi, quand le maire constate une infraction, il fait un procès verbal, eh bien l'amende soit réellement prélevée. Et ça aussi, c'est un problème qu'on rencontre régulièrement. Les maires disent on a du mal à faire exécuter nos arrêtés municipaux, on a du mal à faire rentrer les amendes parce qu'il faut s'adresser à d'autres services qui, eux, ont d'autres choses à faire. Eh bien, il faut que ça s'arrête, il faut que les maires soient soutenus dans leur travail.
Très rapidement, pour terminer, Philippe Bas, on est à quelques mois des municipales. Est-ce qu'il y a une crise de vocation? Est-ce qu'il va y avoir un manque de candidats, de maires candidats?
Écoutez, c'est vrai qu'on dit ça presque à chaque fois, mais je crois que cette fois, c'est plus grave que les précédentes, pour résumer les choses, puisque vous me demandez de faire vite. On a près de 50% des maires qui disent qu'ils ne veulent pas y retourner, on est dans cette situation-là, et quand on voit toutes ces difficultés rencontrées par les maires, il est urgent d'agir pour répondre à leurs préoccupations, non pas pour eux, mais pour les habitants de leur commune, qui ont besoin de maires pleinement libres d'esprit pour s'engager au service de la commune.
Philippe Bas, le président de la commission des lois du Sénat sur Europe 1 ce soir. Grand merci à vous, monsieur. Merci.
Merci à vous.
Europe 1. Il est 19h30 à suivre dans votre grand journal du soir. Thierry Dagiral à 19h50. Retour sur Actu. Ce soir, le jour où Theresa May a annoncé sa démission. Mais tout de suite, place au débat d'actu. Thierry Dagiral.
Avec deux débatteurs à mes côtés en studio ce soir et en direct, l'éditorialiste Denis de Montpion et François-Xavier Bourmeau du Figaro. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
On va revenir d'abord sur, bien sûr, le malaise des maires. On vient d'en parler avec Philippe Bas. La semaine a été marquée par le décès du maire de Signes dans le Var. Une information judiciaire a été ouverte pour homicide involontaire pour tenter d'éclairer les circonstances du drame. Vendredi, c'est un maire du Puy-de-Dôme qui a été agressé au couteau. Dans le JDD ce matin, le président de l'Association des maires de France, François Barouin, dit que les élus sont en danger. Ils sont en danger, Denis de Montpion?
Écoutez, je pense que il y a effectivement deux faits divers malheureux que vous venez de rappeler. Alors il y a effectivement un malaise politique qui n'est pas nouveau, hein, et les maires n'y échappent pas. Et donc, à quelques mois des municipales, et compte tenu aussi du fait que Emmanuel Macron, pendant les deux premières années de son mandat, a un peu dirigé ce pays de manière jupitérienne, sans trop s'appuyer
sur les maires,
ni d'ailleurs sur toutes les forces et institutions intermédiaires de ce pays. Mmh. On a vu ce que ça avait donné, les gilets jaunes, et puis ensuite on les a introduits dans le débat. Mais je pense qu'il ne faut pas dramatiser cette situation, et les difficultés que rencontrent les maires posent en réalité un problème de réforme des collectivités, ouais. Car, comme vous le savez, depuis des années, depuis la première décentralisation au début des années 80, on a empilé les différentes strates, ce que Nicolas Sarkozy, président de la République, appelait le millefeuille administratif. Ouais. Et résultat, plus personne ne sait ce qu'il fait, et on a toujours autant d'élus dans ce pays.
François-Xavier Bourmeau, du Figaro.
Oui, alors que les maires sont en danger aujourd'hui, sans doute, mais autant que d'autres catégories de la population, comme les enseignants qui sont parfois agressés par des parents d'élèves, ou les personnels hospitaliers aux urgences qui aussi affrontent des situations difficiles. On peut même parler des pompiers dans certains cas. La police, n'en parlons pas. C'est un mouvement un peu plus large de défiance de l'autorité.
De l'autorité,
en,
oui.
En tout cas, s'agissant des maires, le sujet était ressorti de façon un peu sourde dans le grand débat national, quand Emmanuel Macron avait fait toutes ses rencontres avec les maires de France. Mais ce qui était ressorti, ce n'était pas tant la question des menaces sur les élus locaux que l'impuissance qu'ils ressentaient face aux demandes de leurs administrés. Il y a chez les maires de France un sentiment de ne pas pouvoir répondre, un sentiment d'impuissance, ouais. Auquel Emmanuel Macron va essayer de répondre avec la loi que porte Sébastien Lecornu, là, qui sera sans doute votée à la rentrée.
Qu'est-ce que ça dit de la relation citoyen-élu? Est-ce que finalement, Denis de Montpion, c'est la suite des gilets jaunes?
C'est beaucoup plus compliqué que ça, en réalité, parce que c'est vrai que le maire a toujours été identifié comme le référent dans le paysage politique.
Oui. Bon,
c'est vrai.
Avant, c'était une engueulade, maintenant, on sort le couteau. Quoi.
C'est... Mais la difficulté aussi, c'est qu'il y a un problème de nombre de maires. Vous savez qu'en 2010, il a été créé un statut de commune nouvelle, c'est-à-dire qui permettait de fusionner plusieurs petites communes, car en France, ne perdons pas de vue qu'il y a 75% des communes qui ont moins de 1000 habitants. Alors quand on dit qu'aujourd'hui, il y a des difficultés pour une représentation, bien sûr, parce que ce sont des villages qui sont morts pour beaucoup.
Ouais.
Et ils sont désertifiés complètement. Qui a désertifié d'ailleurs ces villes? Ce sont les responsables, ce sont les maires. Ils sont les premiers responsables de ce qui leur arrive d'une certaine manière. Alors, il y a des tentatives et ça a été fait. Il y a des communautés de communes qui ont été organisées, etc. Mais le nombre d'élus n'a pas diminué.
Ouais.
Comprenez. Donc, et alors aujourd'hui, les maires se tournent vers l'État, ils pleurent parce que, évidemment, les dotations, la France n'est plus aussi riche qu'elle était dans les années 50 ou 60, donc réduction des dotations, et voilà, ils tendent la sébille, mais moins de ronds-points, redonnons un peu de dynamisme, organisons les villes autour de vraies communautés de communes, et surtout, réduisons le nombre de délégués ou de représentants de ces nouvelles institutions.
François-Xavier Bourmeau, il y a quelques minutes sur Europe 1, j'étais en conversation avec le sénateur Philippe Bas qui annonce donc qu'il va lancer cette semaine une consultation des maires pour pousser le gouvernement à agir vite. Ça sera utile, c'est utile?
Pour recueillir l'avis des maires, c'est forcément utile. Mais je rappelle, dans le cadre du grand débat national, il y a déjà eu quand même énormément d'heures de discussion entre le président de la République et les maires qui ont déjà fait remonter une grande partie de leur...
Qu'est-ce qu'il faut faire alors aujourd'hui?
Sans doute donner plus de... rapprocher le maire du citoyen, c'est lui donner plus de pouvoir. Alors il y a une revendication qui a été entendue, c'est le réaménagement de la loi NOTRe qui organisait justement les communautés de communes, enfin le rapprochement des communes, et qui mécaniquement éloignait le maire de ses concitoyens.
Ouais.
Donc là, il est d'ores et déjà acquis que la loi NOTRe sera revisitée. Il y a d'autres choses qui vont être portées dans la loi engagement et proximité.
Ouais.
Des toutes petites choses qui sont assez techniques, comme par exemple faire prendre en charge par les conseils municipaux les indemnités, les frais de justice des maires qui sont attaqués en justice par des administrés.
Ouais.
Tout ce genre de choses, alors qui sont des petits détails, mais qui peuvent mettre un peu
dans le quotidien.
Ça prendra du temps.
Il y a ce sondage IFOP paru donc dans le JDD ce matin. 83% des sondés ont une bonne opinion des maires. Seulement 38% des élus en général. 70% trouvent que les carrières politiques sont trop longues, qu'ils gagnent trop d'argent pour 66%, et ils sont seulement 47% à condamner les actes récents de vandalisme contre les permanences des députés. On sent tout de même cette défiance, Denis de Maupion.
Alors, les députés, c'est encore
autre chose.
Parce que là, les députés de La République En Marche sont ciblés pour une raison très simple.
Le CETA.
C'est le CETA,
bien sûr,
qui a été, validé comme ça, sans coup férir, d'une certaine manière. Il n'y a pas eu de débat national, quoique ils en disent. Ça a duré 24 heures. Enfin, d'ailleurs, il n'y avait pas de débat à avoir, puisque tout avait été conclu à Bruxelles, d'une certaine manière. Et il y a quelque chose d'absurde dans ce CETA, cet accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, c'est qu'il est totalement contradictoire avec le discours ambiant, c'est-à-dire circuit court, transition écologique, etc.
Dans le prochain, prochain débat.
Et donc, les élus découvrent aujourd'hui de La République En Marche, qui sont quand même, pour la plupart, je ne parle pas des recyclés, du Parti Socialiste ou de la droite.
Les conséquences d'un vote à Paris, quoi.
Voilà. Des novices, pour beaucoup. Ce sont
les citoyens sur le terrain.
Ce sont des députés qui se sont improvisés politiques et ils découvrent la dureté de la vie politique.
François-Xavier Bourmeau.
Oui, on a l'impression qu'on retrouve au niveau local, avec la défiance qui s'exprime vis-à-vis des maires, dont 83% des Français ont quand même une bonne opinion. Donc c'est quand même le le premier maillon de la République. Mais on a quand même l'impression que ce qui s'exprime dans cette défiance à l'égard de cet élu local qui est apprécié, c'est le sentiment d'impuissance, mais qu'on retrouve aussi à des niveaux plus élevés macro-politiques, la puissance par rapport à Bruxelles aussi, ou le fait que le politique aujourd'hui ne peut plus toucher la vie quotidienne des Français. Et ça fait longtemps que cette colère est sourde dans la société. On arrive à un stade, on a l'impression qu'on arrive à un moment où elle s'exprime de façon radicale.
Pour conclure rapidement, il faut juste rappeler quand même que le salaire des maires, c'est pas dingue. Hein.
Non.
Les petits maires, les petites communes.
Mais voilà.
C'est vraiment un sacerdoce, qu'on peut
incitatif
dire.
Pour réduire le nombre de petites communes. Organiser des regroupements dans le cadre de cette loi qui a été votée en 2010, voilà, et faire en sorte que, par exemple, il y ait une... Vous savez, depuis l'organisation de cette loi, il y a quand même une seule ville de plus de 68 000 habitants, c'est-à-dire Évry-Courcouronne, qui est dans l'Essonne, donc c'est une de ces villes nouvelles, si on peut dire, des années 60, qui a véritablement... eu un peu d'efficacité. Ouais. Mais pour le reste, vous comprenez, au rythme auquel vont les choses, il faudra 30 ans pour qu'on arrive au stade de l'Allemagne, c'est-à-dire se retrouver avec 11 000 communes. Alors, évidemment, parce qu'on mutualise à ce moment-là les piscines, les infrastructures, enfin, tout ce qui fait la vie et l'organisation d'une cité.
Juste pour terminer, François-Xavier Bourmeau, c'est la question que je posais à Philippe Bas tout à l'heure. Finalement, on est à quelques mois des municipales. Il y a plein de maires qui refusent de se représenter, qu'on n'a pas envie.
Oui, ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer pour les prochaines élections municipales. En tout cas, ça va colorer ce qui se passe aujourd'hui avec la défiance vis-à-vis des maires. Ça va forcément colorer les campagnes municipales. Il y aura vraisemblablement des problèmes dans les petites villes. En revanche, on peut rester rassuré, les grandes villes aiguisent toujours les
appétits. Bien sûr, les grosses agglomérations.
De candidats qui
sont. Mais on voit bien que, par exemple, La République En Marche a du mal à trouver des candidats pour les prochaines municipales.
Alors, La République En Marche, c'est aussi un parti qui est très jeune et qui, dans la formation de ses cadres, en est au tout début. Donc, c'est pas vraiment étonnant. En revanche, des partis, les partis historiques, enfin, un peu plus ancrés dans les territoires, comme le PS ou les Républicains, eux, aucun mal à trouver des candidats.
Et d'ailleurs, on voit bien, il y a eu déjà des ralliements. Hein. On l'a vu à la suite des élections européennes. Il y a quand même plusieurs élus maires de villes assez moyennes, quand même assez importantes, qui ont rallié, ou en tout cas qui se sont dit prêts à faire équipe avec La République En Marche pour avoir un soutien et sauver leur chemise au prochain scrutin.
Restez avec nous, le débat d'actu continue dans un instant avec Denis de Montpion et François-Xavier Bourmeau. On va parler du dernier rapport du GIEC. Faut-il changer nos habitudes alimentaires? Ne bougez pas, on revient dans un instant.
Thierry Dagiral sur Europe 1.
18h, 20h.
Votre grand journal du soir avec Thierry Dagiral sur Europe 1.
19h40 sur Europe 1, la suite de votre grand journal du soir jusqu'à 20h. Thierry Dagiral et la suite du débat d'actu avec l'éditorialiste politique Denis de Montpion et François-Xavier Bourmont du Figaro.
Alors, deuxième sujet ce soir, on va parler du tout récent rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui dit, c'était jeudi dernier, qu'il est urgent de modifier la manière dont nous produisons et dont nous consommons la nourriture. Donc d'un côté, on en parlait tout à l'heure il y a quelques minutes, hein, on nous dit que les sols s'appauvrissent et de l'autre on vote le CETA. Tout cela est quand même assez paradoxal, Denis de Montpion.
Oui, d'ailleurs je trouve que ce rapport-là est un peu axé et fait un peu la peau des agriculteurs d'une certaine manière. On a l'impression que c'est quand même eux qui nourrissent la planète et on leur impute les causes du réchauffement climatique. Ils ne sont quand même pas les seuls.
Ouais.
Ça pose le problème majeur que le GIEC d'ailleurs a déjà rappelé dans le passé, et ça fait des années qu'il le rappelle, c'est que c'est un problème d'activité humaine. Et plus il y a d'activité humaine, plus il y a évidemment de consommation et de pollution. Alors évidemment, il faut changer les habitudes, ça c'est, acquis. Ouais. Mais a-t-on besoin d'un énième rapport du GIEC pour procéder à ça? Là, à présent, tout ce que le GIEC a énoncé dans son dernier rapport, on le sait, ce qu'il faut, c'est des décisions politiques. Mais on voit bien que la France seule ne pourra pas, on l'a vu avec l'accord de Paris, hein, qui n'était pas coercitif, si les pays et les grandes puissances ne souscrivent dans les mots, mais pas dans la pratique, eh bien, on n'est pas au bout de nos peines.
François-Xavier Bourmeau.
Oui, okay. Alors les rapports du GIEC, on en aura un autre en septembre sur la fonte des glaces, qui sera vraisemblablement aussi alarmant et qui appellera à des mesures aussi compliquées à mettre en œuvre. Là, en fait, on se retrouve au cœur du paradoxe. En fait, il y a cette urgence climatique qui exige des politiques de long terme et des urgences de court terme, comme par exemple avec le CETA sur des questions d'économie. Ouais. Et c'est très compliqué pour les gouvernants de réussir à équilibrer ces deux urgences, l'urgence climatique à long terme et l'urgence économique à court terme. La voie de passage est très étroite et c'est très difficile de s'engager sur ces questions-là parce que de toute façon, en matière d'écologie, ouais. En matière d'écologie, un gouvernement quel qu'il soit n'en fera jamais assez aux yeux des citoyens qui sont concernés par le changement climatique. Donc, Emmanuel Macron essaie de colorer sa politique de vert. Forcément, ça ne sera pas perçu comme efficace.
Le rapport du GIEC dit qu'il faut changer notre modèle agricole. Est-ce qu'on a les moyens d'en changer? Est-ce qu'il y a, selon vous, un manque de volonté politique, Denis de Montpion ?
Qu'il y ait un manque de volonté politique, c'est évident. De toute façon, la France est confrontée aussi à la concurrence, puisqu'elle a longtemps été le premier pays exportateur de produits agroalimentaires. Vous savez que ça fait déjà 2 ou 3 ans que l'Allemagne est passée devant. Donc, ça pose un vrai problème. Alors, la France est confrontée au problème suivant, c'est-à-dire une agriculture de qualité. Alors, de plus en moins, on a longtemps eu l'agriculture conventionnelle, c'est-à-dire avec beaucoup d'intrants, c'est-à-dire d'engrais, de choses comme ça. Et peu à peu, il y a notamment en Bretagne, dans le nord de la France, dans le centre aussi, dans le Cher ou la Nièvre, il y a énormément d'agriculteurs qui se mettent à l'agriculture raisonnée. Ça prend du temps, mais évidemment, ils ne peuvent pas être concurrentiels face à des pays qui font encore des ensemencements sur des grandes surfaces et qui peuvent brader les prix.
François-Xavier Bourmeau, est-ce que finalement, il n'y a pas derrière les lobbies agro-industriels qui restent toujours plus forts? L'interdiction du glyphosate, par exemple, a été repoussée à on ne sait quand. Il y a une volonté et puis il y a le travail des lobbies. Les actes ne sont pas là, quoi.
Oui, mais parce qu'il y a aussi des habitudes, une culture qui est profondément ancrée dans le pays. Est-ce que vous imaginez un seul instant un album d'Astérix, par exemple, qui se terminerait par un banquet bio? Je ne pense pas que ça ferait beaucoup de ventes. Il y a vraiment des habitudes à changer et ça se joue sur très, 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 très long terme, encore une fois. Sur l'impact le poids des lobbies, vous avez effectivement des lobbies d'un côté qui défendent les intérêts de l'agroalimentaire, mais vous avez des lobbies environnementaux de l'autre côté. Le GIEC peut aussi être considéré comme un lobby environnemental.
Ce rapport du GIEC propose aussi de changer nos habitudes alimentaires. Moins de viande, plus de céréales secondaires. Ça veut dire que l'élevage serait donc l'un des modes de production les plus pollueurs des deux Montpions.
Non, écoutez, je ne sais pas si les experts du GIEC sont tous véganes, mais en tout cas, c'est quand même pas mal d'avoir un bon steak dans son assiette parfois. Donc, il faut arrêter de cibler un peu les producteurs de viande. Ce qu'il faut, c'est lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire. Et ça commence où et quand? Ça commence à l'école.
Ouais.
Voilà, ça commence dans les familles.
Il faut éduquer, il faut...
Vous savez, on sort de... Il y a eu les 30 glorieuses et puis ce qu'on a appelé les 30 piteuses, mais quand même, les mauvaises habitudes sont restées où on pouvait, en effet, avoir une grande assiette de viande, légumes, tout ce que vous vouliez. Vous pouviez en laisser tout ce que vous voulez. Et puis, ça passait à l'as. Mais non, je pense que c'est les bonnes vieilles, comment dirais-je, méthodes d'apprentissage où, effectivement, il faut penser que quand on a du pain dans son assiette, c'est le boulanger qui le produit, que derrière, il y a de la farine qui a servi à faire ce pain, etc. etc. Donc, il faut, comment dirais-je, faire en sorte que les enfants, déjà, les premiers, aient conscience de ce phénomène de production.
Je donne la parole à François-Xavier Bourmeau pour terminer. Il nous reste quelques secondes, puisque vous avez commencé, vous, Denis, sur ce thème-là. Ce type de rapport, est-ce qu'il n'est pas finalement dangereux pour les agriculteurs, les éleveurs, qui vont... une fois de plus être pointé du doigt?
Bah si, forcément. Enfin, vous voyez déjà les réactions que provoque un accord comme le CETA. Vous pouvez imaginer ce que si vous traduisez en politiquement ce que propose le rapport du GIEC, vous mettez toute l'agriculture française dans la rue, et c'est pas des permanences de députés que vous voyez vandaliser. On revient là au camion de fumier déversé devant les préfectures, si ce n'est l'Élysée. Juste ce qu'on disait sur le gaspillage, une loi qui passe à la rentrée, normalement portée par Brune Poirson, la loi anti-gaspillage, qui prévoit de recycler 100% des plastiques en 2025. Pas seulement, il y a aussi d'autres choses dans cette loi. Elle veut renforcer le principe pollueur-payeur, mettre en place une police des déchets, une consigne pour les bouteilles en plastique. Et bon, c'est un premier pas, mais cette loi, elle est déjà critiquée parce qu'elle n'est pas assez efficace, parce qu'elle ne va pas assez loin. Ou parce que, on voit déjà que dès que vous mettez le doigt là-dedans, c'est quasiment impossible de s'en sortir. Ouais.
Merci à vous deux, Denis de Montpion et François-Xavier Bourmeau, d'avoir accepté de débattre ce soir sur Europe 1 en direct. Merci à vous deux.
Europe 1. Bonne soirée sur Europe 1, il est 19h48. Restez avec nous à suivre Retour sur Actu dans votre grand journal du soir, le jour où vous reviendrez, Thierry, avec John Haley du Guardian, sur le jour où Theresa May a annoncé sa démission. A tout de suite. Écoutez Europe 1, 19h48, le jour où, tous les week-ends à cette heure-ci, dans votre grand journal du soir, Thierry Dagiral, on revient sur un événement qui a marqué l'actualité récente.
Oui, et ce soir, on va faire un arrêt sur image, en quelque sorte, sur le 24 mai 2019, avec vous, John Henley, journaliste britannique, correspondant Europe du Guardian en France. Bonsoir.
Bonsoir.
Et ce 24 mai dernier, la chef du gouvernement britannique, Theresa May, annonce sa démission.
Je vous annonce aujourd'hui que je vais démissionner de mes fonctions de leader du Parti conservateur et unioniste. Je vais bientôt quitter ce poste qui a juste été l'honneur de ma vie. La deuxième femme première ministre, mais certainement pas la dernière. Je le fais sans amertume, mais avec beaucoup de gratitude d'avoir eu l'opportunité de servir le pays que j'aime profondément.
On sent les sanglots dans la voix. John Henley, c'est une femme profondément brisée qui s'exprime ce 24 mai.
Complètement. Elle n'a pas réussi à mettre en œuvre ce qu'elle a promis, c'est-à-dire le Brexit. Elle s'est trouvée complètement coincée. Beaucoup de monde a salué sa persévérance, son sens de l'obligation. Mais en fait, finalement, elle a aussi été en grande partie l'architecte de son propre malheur.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'elle a fait énormément d'erreurs. On lui a donné une main de carte, certes très difficile, mais elle les a quand même très mal jouées. Par exemple, il y avait des élections législatives anticipées qu'elle a perdues. Elle a perdu sa majorité. Elle a ensuite déclenché l'article 50, donc l'article qui prévoit la sortie de l'Union européenne de la Grande-Bretagne, sans avoir une idée vraiment très claire, sans avoir un accord au sein de son propre parti, et certainement pas au sein du pays, sur quelle direction elle voulait que le Brexit prenne. Ouais. Et ensuite, il y a eu des lignes rouges, sorties du marché unique, sorties de l'Union douanière, etc., etc. Tout cela a fait en sorte qu'elle s'est trouvée vraiment complètement coincée par ses propres décisions.
Mais c'est ça qui est assez frappant, c'est que finalement, on a le sentiment qu'elle a tout essayé. C'était même peut-être trop brouillon d'ailleurs.
Oui, je veux dire, elle n'a pas été bien servie évidemment par son parti et par le Parlement britannique, qui est, comme le pays, profondément divisé. Mmh. En gros, qu'est-ce qu'il y avait au sein du à Westminster ? Il y a environ un tiers des députés qui soutiennent l'accord de sortie négocié par Theresa May avec l'Union européenne. Il y a un tiers qui trouvent que ça va trop loin, qui veulent donc rester beaucoup plus proche de l'Union européenne, quitte à rester. Et il y a un tiers qui trouvent que ça va pas assez loin du tout. Et tant que cette arithmétique-là, au sein du Parlement, ne change pas, le Brexit ne sera pas possible.
John Henley, est-ce que finalement, au plus profond d'elle, elle y a cru, Theresa May, à ce Brexit ?
C'est une très bonne question et je ne connais pas je sais pas la réponse. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a quelques jours, quelques semaines, même quelques jours avant le référendum de juin 2016, elle a prononcé un discours à la City pour un public de banquiers qui semblait être très convaincu et convaincant sur la nécessité absolue pour la Grande-Bretagne de rester dans l'Union européenne. Elle a changé d'avis, elle a cru que c'était son devoir de mettre en œuvre le Brexit. Finalement, elle n'a pas réussi.
En tout cas, lorsqu'elle annonce sa démission, il y a beaucoup de réactions, bien sûr. Écoutez celle-ci.
Oui, ils étaient tous là, comme si elle était une sorte de Jules César. Et ils l'ont tous poignardée, dans le dos. Vraiment, ils sont très déloyaux.
Je suis de gauche, donc je ne vais pas la plaindre, mais son travail était impossible. Je m'attendais à la démission, mais je redoute la suite. Ça va peut-être s'empirer.
John Henley, correspondant Europe du Guardian, elle n'a pas été aidée, Theresa May.
Non, pas du tout. Et surtout, je pense qu'il y a les deux ailes de son propre parti qui ont quelques... Oui, l'intervenante avait complètement raison. Elle a été un petit peu poignardée dans le dos. Ouais. Par l'aile gauche de son parti, ceux qui voulaient rester ou de toute façon qui veulent absolument éviter à tout prix une sortie sans accord. Et l'aile droite, l'aile eurosceptique, l'aile en fait du parti qui a vraiment provoqué le Brexit, qui a milité pour depuis 20-25 ans, qui a provoqué la démission maintenant de 3 ou 4 premiers ministres conservateurs. Et voilà, eux, ils veulent justement cette sortie sans accord, une Brexit pure, comme ils disent.
Et puis on se souvient des manifestations contre le Brexit à Londres. L'opinion a changé aussi.
L'opinion a changé, surtout par rapport à no deal, donc une sortie sans accord. Ouais. Les derniers sondages montrent que les Britanniques sont à 70, même 80% contre une sortie sans accord. Pour le Brexit, avec un deal, avec un accord, c'est beaucoup plus mitigé, beaucoup plus partagé, à peu près 55-45, mais donc pour une sortie avec un accord.
Ouais. Et puis, il y a eu un homme, ministre des Affaires étrangères, qui quitte le gouvernement en juillet 2018 et en même temps que le ministre chargé du Brexit. Cet homme, c'est bien sûr Boris Johnson, pas toujours tendre avec Theresa May.
Après avoir lutté, après avoir fait campagne, ça me désole de constater que nous allons souscrire un avenir dans lequel l'Union européenne va nous imposer ses lois dans beaucoup de domaines. Et nous n'aurons pas notre mot à dire à Bruxelles. C'est une absurdité. Nous ne pouvons pas continuer dans cette direction.
Voilà, là c'est en décembre 2018. Boris Johnson, il a contribué à la chute de Theresa May ?
Ah, tout à fait, avec plusieurs autres ministres.
Bien sûr.
Elle en a perdu, je pense, 18 au cours de son, mandat. Effectivement, mais lui, vraiment, oui, en tant que chef de file, c'est lui qui était vraiment la tête de proue de la campagne pour le Brexit. Il a resté, il est maintenant évidemment devenu Premier ministre.
Il s'est activé beaucoup pour remplacer Theresa May en coulisses, en tout cas, parce que c'est un fin stratège.
C'est un fin stratège. Il donne vraiment cette impression d'être clown et bouffon, mais en fait, ce poste de Premier ministre de la Grande-Bretagne, il en rêve depuis l'âge de 12 ans environ.
Vous êtes très sceptique, hein?
Moi, je suis sceptique parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'il veut réellement. Hein. On ne sait pas du tout si là, il fait beaucoup de discours et toutes les nominations, son nouveau gouvernement, tous ses ministres qui ont tous mené campagne pour le Leave, sont vraiment des Brexiteurs purs et durs. Il a répété récemment et répète sans cesse Boris Johnson qu'il n'y aura plus de négociations avec l'Union européenne tant que le fameux backstop pour éviter une frontière dure entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, tant que ce backstop que les Européens ne laissent pas tomber ce backstop. Donc, il donne l'impression vraiment de vouloir une sortie sans accord.
Il promet
le 31 octobre,
voilà,
do or die, voilà, que la Grande-Bretagne va sortir deal ou no deal le 31 octobre.
Il peut réussir pour vous ?
Écoutez, c'est l'option par défaut. C'est-à-dire qu'il va falloir que à la fois l'Union européenne, Bruxelles et le Parlement britannique fassent quelque chose pour éviter. Parce que la loi veut que l'accord a été signé, la Grande-Bretagne doit sortir le 31. Sauf si il y a autre chose qui intervienne. Donc voilà, mais j'accepte pas l'idée qu'il n'est pas Il est intelligent, Boris Johnson. Il sait très très bien à quel point une sortie sans accord, je veux dire, ce que ça va faire à l'économie britannique, ça va être vraiment catastrophique. Tous les économistes sont d'accord pour le dire. Donc, est-ce qu'il veut ça vraiment ou est-ce que c'est juste une stratégie, un grand jeu de poker, en fait, ouais, pour arriver à de nouvelles élections pendant laquelle, évidemment, après laquelle, évidemment, lui, il sera réélu avec une majorité beaucoup plus importante pour mettre en œuvre vraiment ces politiques qu'il veut.
Le jour où Theresa May a annoncé sa démission, le 24 mai 2019, décrypté par le correspondant Europe du Guardian à Paris, John Henley, un grand merci à vous.
Merci.
Europe 1.
Eh bien écoutez, voilà, ainsi s'achève votre grand journal du soir. Merci à Cédric Lassonnet qui m'a aidé à préparer ces deux heures d'infos. Merci à Romain Le Borgne à la réalisation. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous Géraldine.
Merci Thierry.
Dans un instant, on retrouve Alban Le Poivre et ce soir c'est PSG Nîmes, le dernier match de la première journée de Ligue 1. Belle soirée à tous sur Europe 1.
Europe 1 Sport, 20h-23h, Alban Le Poivre.